Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
C'est parti, excellent réveil à tous, il est 6h57, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez sur RMC, Story, c'est vendredi. Ça c'est la première bonne nouvelle du jour, il n'y en a pas beaucoup d'autres, mais celle-là, au moins on est sûr de notre coup. C'est vendredi, c'est bientôt le week-end, on est ensemble jusqu'à 9h avec l'historien Arthur Chevalier, avec l'économiste Emmanuel Lechip. Bonjour à tous les deux. Imaginez, vous êtes auto-entrepreneur et un jour vous vous connectez avec vos codes et on vous dit que ça n'est plus votre entreprise. Vous vous êtes fait littéralement voler votre entreprise. C'est ce qui s'est passé pour cette victime d'une fraude au Cabis qui sera avec nous dans un instant. L'intégralité de sa trésorerie a été volée. Elle ne peut plus utiliser sa société. Elle sera dans ce studio dans 10 minutes. Elle nous racontera ce phénomène qui est en pleine explosion, les fraudes au Cabis, Emmanuel.
Oui, comme si la conjoncture n'était pas assez difficile pour les petites entreprises. En fait, la technologie profite beaucoup aux fraudeurs. Et là, on voit qu'il y a une explosion des cas, hein, 100% d'augmentation des cas de fraude au Cabis depuis 2 ans. Donc c'est un véritable fléau.
Ne manquez pas son témoignage si vous-même vous êtes à la tête de votre société ou de votre petite société pour essayer de comprendre comment l'éviter. Et puis comme chaque vendredi, c'est pas le jour des propositions politiques, hein, ça c'est du lundi au jeudi à 7h50. Non, le vendredi c'est la grande interview. Et ce matin, on va parler de votre santé. C'est le patron de Sanofi France qui sera avec nous sur RMC. Il a choisi RMC alors qu'il s'exprime très rarement. Fabricant mondial de médicaments évidemment, de vaccins. On va parler budget de la Sécu, état de la France, souveraineté industrielle. Emmanuel et Arthur, vous avez des questions pour lui ?
Moi j'en ai une, c'est la dégringolade de la production de médicaments en France. On était premier, maintenant on est sixième. Ça a été en moins de 15 ans, qu'est-ce qui s'est passé?
Voilà. Emmanuel,
on est devenu un pays consommateur. Enfin, on était un pays producteur, on est devenu un pays consommateur.
À grande
Comment
vitesse
on fait pour récupérer notre souveraineté.
Et notre souveraineté et notre croissance, parce que c'est la mauvaise nouvelle aussi hier. Non seulement la croissance française décroche, moitié moins que ce qui était prévu, mais surtout on est l'homme malade de l'Europe. On fait moitié moins que nos voisins européens. La France qui décroche, j'en parlerai aussi avec mon invité à 8h30. Thierry Breton, l'ancien commissaire européen, ancien ministre de l'économie, il sera avec nous donc à 8h30. On parlera aussi de cette enseignante menacée de décapitation par un parent d'élève. Ça s'est passé près de Toulouse. Ça a fait réagir le ministre de l'Éducation et on parlera de l'émotion des profs. Ce sera à 8h10. N'hésitez pas à nous appeler. Voilà, vous avez le programme de la matinée. Il est 6h59. Dans un instant, le journal de 7h, mais tout de suite la météo et Géraldine, il y a la pluie au nord, du soleil au sud. On revient sur un bon classique.
Un grand classique, oui. Alors, de la pluie, c'est vite dit parce qu'il va vraiment y avoir quelques gouttes, hein, cette perturbation qui arrive ce matin par les côtes de la Manche, qui va assez peu s'enfoncer, hein, finalement. Qui va toucher jusqu'au pays de la Loire, l'Île-de-France en fin d'après-midi. Partout ailleurs, donc sur les trois quarts du pays, ce sera du soleil, toujours avec du vent près de la Méditerranée. Et puis les températures qui remontent et on repasse déjà au-dessus des normales de saison pour cet après-midi. 21 à 26 degrés sur la plupart des régions, 22 à Lille, 24 à Paris, 25 à Bordeaux, Lyon. Comptez 27 à 30 près de la Méditerranée. Puis les températures qui vont encore s'envoler pendant le week-end avec les 30 degrés qui devraient être dépassés dès demain en Occitanie.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
Il est 7h, excellent réveil à tous. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texa. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Il a menacé une enseignante de lui couper la tête. Un père de famille vient de passer sa première nuit en prison, condamné hier à 6 mois ferme. Hausse des coûts de l'énergie, recul du pouvoir d'achat, l'économie du pays décroche. Alerte de l'INSEE qui revoit encore ses prévisions pour 2026 à la baisse. Et Lens, miraculé en Ligue des Champions, revenu de l'enfer, mené 2-1 dans le temps réglementaire. Les Saint-Eor renversent le Slavia Prague, 3-2.
Condamné pour avoir menacé de mort une enseignante.
Mécontent d'une sanction infligée à son fils, un père de famille a menacé l'institutrice de la décapiter. Ça s'est passé la semaine dernière au Foga, petite commune de moins de 3000 habitants en Haute-Garonne, jugée hier en comparution immédiate. L'homme, condamné à 6 mois de prison ferme avec effet immédiat, vient de passer sa première nuit derrière les barreaux. Une peine rare. Et cela a même surpris les parties civiles. Constance Bostoen.
Oui, à la sortie de l'audience, l'avocat des parties civiles, maître Momasso, ne cache pas sa surprise.
C'est quelque chose de rarissime. Je pense que le tribunal a pris en compte les souffrances de la partie civile, a pris en compte le trouble à l'ordre public que ses propos ont occasionné dans la communauté enseignante.
Interrogé quelques minutes plus tôt, le père de famille s'est excusé d'une voix faible. « Je ne suis pas quelqu'un de violent à la base. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé ce jour-là », explique-t-il. Il assure avoir compris la peur qu'a ressentie l'enseignante, qui est aujourd'hui traumatisée et en arrêt maladie, comme l'a souligné son avocat.
Elle n'est pas venue crier vengeance. Tout ce qu'elle voulait, cette dame, c'est qu'on la reconnaisse en qualité de partie civile et qu'on mesure la souffrance et les conséquences que de tels propos ont eu sur sa qualité de vie.
Le père de famille a également été condamné à lui verser 1 euro symbolique.
Et ne manquez pas, à 8h10 sur RMC, le représentant du syndicat des directeurs et directrices d'école, il sera en direct avec nous à 8h10, mais d'ici là je vous attends, n'hésitez pas, vos réactions au 32-16.
RMC, il est 7h02. Se chauffer cet hiver va vous coûter cher. Le prix de référence du gaz va encore grimper, plus 6,3% au 1er octobre. 6 millions de foyers sont concernés. Encore un coup porté au portefeuille des Français, déjà impacté par la hausse des coûts du carburant. Les prix à la pompe s'envolent, portés par la guerre au Moyen-Orient, qui a une autre conséquence, celle de plomber la croissance. L'INSEE revoit ses prévisions à la baisse pour l'année en cours, à 0,4 points contre 0,7 initialement prévu. Mais ce qui surprend, c'est que la France décroche par rapport à ses voisins européens. Victor Joannin, comment expliquer cette particularité ?
Eh bien, plusieurs facteurs ont joué. L'impact des vagues de chaleur dans l'agriculture avec des récoltes catastrophiques, l'arrivée des nouvelles équipes dans les mairies après les municipales, et oui, les nouveaux élus mettent du temps à relancer les travaux publics, et le manque d'impulsion budgétaire. L'État n'a pas assez d'argent pour relancer l'activité à grands coûts de dépenses publiques, contrairement à l'Allemagne par exemple, et c'est ce manque d'investissement public comme privé d'ailleurs qui inquiète l'économiste Anne-Sophie Alsif.
Les chiffres montrent qu'il y a un phénomène d'appauvrissement. Et c'est vraiment dû à cet investissement dans l'avenir, dans toutes ces transitions qui est insuffisant. Et c'est ça qui, à mon sens, est très compliqué. C'est-à-dire que pendant qu'on n'arrive pas à mettre en place des réformes, des programmes structurels, les autres le font. Avance pendant que nous stagnons.
L'économie stagne, le marché de l'emploi aussi, et le taux de chômage devrait donc continuer de grimper, 8,6% à la fin de l'année, prédit l'INSEE, soit près de 100 000 chômeurs de plus qu'aujourd'hui.
Et le gouvernement continue de faire la chasse aux économies. Il va durcir les règles d'indemnisation liées aux arrêts maladie, visant à abaisser de 3 à 1 an la durée d'indemnisation dont bénéficient certains patients à titre dérogatoire.
7h04 sur RMC. Nouveau rendez-vous judiciaire pour Cédric Jubilard.
Jugé en appel au printemps prochain après ses aveux pour le meurtre de sa femme Delphine, le peintre plaquiste en détention depuis 5 ans va retrouver son domicile Romain Houx. Ce sera le mois prochain pour une reconstitution.
Oui, selon nos informations, cette reconstitution aura lieu à Cagnac-les-Mines le 2 octobre. Elle doit permettre de replacer Cédric Jubilard dans les circonstances précises de cette nuit du 15 au 16 décembre 2020. Le principe est de l'amener devant témoin à reproduire ses gestes et déplacements de la manière la plus fidèle possible et de confirmer ou d'infirmer la version du peintre plaquiste de 38 ans qui évoque une énième dispute conjugale qui aurait dégénéré. Cette reconstitution a été ordonnée par la justice dans le cadre du supplément d'information ouvert début juillet après les aveux de Cédric Jubilard qui avait expliqué avoir tué son épouse, puis transporter son corps dans le coffre de sa voiture avant de le dissimuler sous un monticule de compost dans un champ à plus d'une dizaine de kilomètres de là, à Mayoque. Une autre reconstitution est d'ailleurs prévue sur place.
Et les précisions ce matin de Romain Houx. C'est l'événement politique et culturel du week-end, la 91e édition de la Fête de l'Humanité jusqu'à dimanche dans l'Essonne, avec un meeting de Fabien Roussel, mais aussi Jean-Luc Mélenchon, invité pour l'occasion au festival aux allures de présidentielle. À 7 mois du scrutin, les candidatures sont nombreuses, chaque candidat se monte sur le terrain, tous ou presque. Exception faite de Marine Le Pen, elle sera au Touquet pour les journées parlementaires du RN avant un meeting dans son fief des Nains-Beaumont dimanche. Il faut dire, Sonia Gobry, que la candidate RN s'est faite plutôt discrète dans cette rentrée compliquée pour le parti.
Oui, les polémiques s'enchaînent et révèlent des fissures à la tête du RN, cacophonie sur le voile, silence de Marine Le Pen quand Jordan Bardella essuie un torrent de critiques après avoir signé un accord symbolique sur le renvoi en France de migrants interceptés dans les eaux britanniques. Il y a eu aussi le départ retentissant du conseiller économique François Durvie, écarté après avoir incité Jordan Bardella à défier Marine Le Pen en se lançant dans la course à l'Elysée. Et dans cette liste non exhaustive, on peut ajouter les tensions autour de la présence de Marion Maréchal dans la campagne de sa tante. Selon plusieurs sources, sources, ce retour est vu d'un mauvais œil par Jordan Bardella. Mais les cadres du RN jurent que le duo est toujours aussi soudé. Ils s'afficheront ensemble dimanche à Hénin-Beaumont, mais seule Marine Le Pen prendra la parole. Elle va siffler la fin de la récré, se rassure un de ses fidèles.
Les commémorations du 11 septembre, ce vendredi à New York, 25 ans après l'attaque des deux tours du World Trade Center, sans Donald Trump, qui sera lui au Pentagone également ciblé ce jour-là.
Et puis un comeback spectaculaire en Ligue des Champions.
Celui de Lens, mené 2-1 hier dans le temps réglementaire sur la pelouse du Slavia Prague. Les Sang et Or n'ont rien lâché et finalement renversent le match à leur avantage dans le temps additionnel. Victoire 3-2, Valentin Jamin.
Oui, quand Ruben Aguilar marque le but vainqueur, tous les Lensois se jettent sur le défenseur euphorique. Après avoir été mené 2-1 en fin de match, le héros du soir n'en revient pas.
Il rentre dans mon top 3 des scénarios les plus fabuleux, je pense. Le football, c'est le meilleur sport au monde, je pense, pour vivre de telles émotions. Jamais de la vie, on se serait dit on va gagner, mais on y a cru. Pour rentrer dans la plus belle des compétitions, rentrer comme ça, montrer qu'on est un club qui lâche jamais rien, ben c'est important d'envoyer un message fort aussi.
Lens en supériorité numérique pendant une mi-temps, pensait pourtant tout perdre 5 minutes avant lors du deuxième but des Tchèques. Mais les Sang et Or ont donc tout renversé dans le temps additionnel. Du jamais vu dans un match à l'extérieur en Ligue des Champions, l'entraîneur Dino Topmüller a adoré.
Tout le monde a dit, allez, comme, reviens vite, on veut encore, et on cherche la victoire.
J'espère et je pense qu'il y a beaucoup des gens qui ne vont jamais oublier cette soirée-là.
Le contenu n'a pas été convaincant, mais peu importe, les 1000 supporters ont pu fêter la victoire en attendant le prochain rendez-vous à domicile contre le Sporting Portugal, mi-octobre.
Et place à la Ligue 1 ce soir après deux défaites de rang. Victoire impérative pour l'OM en déplacement sur la pelouse de Rennes. Ouverture de la quatrième journée à vivre sur RMC. Et puis la Fédération Française de Foot qui retire son soutien à Gianni Infantino. Confirmation de Philippe Diallo qui en détaille les raisons au micro d'RMC avec un point de rupture. La vente de la Coupe du Monde à des investisseurs privés annoncée cet été reste désormais à trouver un candidat capable de renverser le président de la FIFA aux prochaines élections.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h08 sur RMC. Compte bancaire vidé, trésorerie envolée. Votre entreprise n'est tout simplement plus à votre nom. Bonjour Clara. Clara Robert, vous êtes architecte d'intérieur, décoratrice. Vous vous êtes fait voler votre entreprise il y a quelques jours, victime d'une fraude au CABIS. C'est ce document que tous les chefs d'entreprise connaissent évidemment très bien. Ça peut arriver à tout le monde. Voilà votre parti pris dans un instant et vous venez témoigner auprès de nous. Écoutez attentivement les uns et les autres parce que effectivement, ça permet d'éviter de vivre ce que vient de vivre Clara. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12 et vous êtes bien sûr RMC et RMC Story. Après le vol des données, après les cyberattaques, les usurpations d'identité. Voilà maintenant le vol au CABIS. Clara Robert, vous êtes toujours avec nous. Vous êtes architecte d'intérieur et décoratrice. Vous êtes à la tête de votre entreprise. C'est une SAS. Et vous vous êtes fait voler votre entreprise cet été. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Il s'est passé que j'ai un fraudeur qui a établi des faux documents, donc un faux PV d'Assemblée Générale mentionnant que je démissionnais de mon statut de dirigeant et de mandataire légal de ma société. Une fausse lettre de démission qu'il a envoyée donc au greffe de Nanterre en demandant à prendre le contrôle de ma société à ma place puisque je l'avais nommé. Le greffe de Nanterre a validé ces faux documents, ne pensant pas que c'était des faux documents évidemment. Lui a fait donc le nouveau CABIS, sans me prévenir à quelque moment que ce soit, ni me demander de venir signer un papier ou de me présenter. Enfin, il y a
eu aucune alerte.
Donc, ce monsieur a réussi à avoir le nouveau CABIS de ma société à son nom, le mentionnant comme représentant légal et mandataire de ma société. Il a ensuite envoyé ce nouveau CABIS à ma banque, donc qui est néobanque pour les entreprises, lui demandant d'avoir accès à mes comptes et de me radier de mon compte, ce que la banque a accepté, pareil, sans aucune vérification
tout
en amont.
Ça s'est passé par Internet, il n'y a pas
tout
eu
ça s'est passé
fil,
par Internet.
Ils
nous
ont demandé de signer aucun document, rien.
Rien, aucune demande. Alors, normalement, la banque dans laquelle je suis, la néobanque de mon compte professionnel d'entreprise, demande normalement, en cas de changement de dirigeant, que l'ancien dirigeant fasse une vidéo avec sa carte d'identité, mentionnant le nom de la banque et la date, disant voilà effectivement.
Ça, ils n'ont pas fait.
Non.
Donc rien du tout. Donc comment vous vous en rendez compte ?
Je m'en rends compte mardi en faisant une facture pour un de mes clients dont le chantier reprenait jeudi matin. Donc je rentre mes identifiants de connexion et là je tombe sur une page qui n'est pas la page habituelle, enfin l'interface de mon compte professionnel, sur une page qui me dit bienvenue Clara, reprenons, on en est-on ? Voulez-vous toujours créer votre société ? Je me dis, mais il y a un bug. Je fais le chatbot, bonjour, bonsoir, pouvez-vous m'aider ? J'arrive plus à me connecter. Donc là, ne quittez pas, je me renseigne. Il revient vers moi 10 minutes après, il me dit, bah écoutez, non, c'est normal, votre mail professionnel n'est plus rattaché à votre compte bancaire, puisque nous avons reçu un nouveau cabis ce matin pour le nouveau dirigeant. Donc là, je tombe de ma chaise, je dis, quel nouveau dirigeant? Enfin, c'est moi, je comprends pas, je me suis encore connectée ce matin. Donc ils refont des vérifications et donc là je le fais, j'appelle ma comptable, je regarde et effectivement donc en demandant mon nouveau cabis, je vois que ce monsieur apparaît comme nouveau dirigeant, comme nouveau mandataire légal de ma société.
Vous savez qui c'est, vous avez son nom et vous avez forcément aussi ses coordonnées. Vous pouvez porter plainte, est-ce qu'il y a une procédure en cours?
Alors j'ai porté plainte, c'est ce que m'a demandé ma banque, parce que je leur ai demandé au tout début de geler les comptes, en leur disant, attendez, c'est une usurpation d'identité, il va vider mes comptes et ce n'est pas moi qui suis derrière ce changement de dirigeant. La banque a refusé, me disant, bah non, c'est un cabis officiel du greffe de Nanterre.
Parce que de fait, ce document-là, c'est un vrai.
C'est un vrai.
Puisque le tribunal de Nanterre a effectivement établi un véritable cabis.
Sur présentation de faux. Mais ça, c'est à prouver, l'enquête est en cours.
Et l'objectif du fraudeur, concrètement, c'est quoi? C'est juste de...
C'est vider mes comptes.
Il n'y a pas l'intention de gérer ta boîte à votre place.
Je ne pense pas qu'il veuille devenir architecte d'intérieur.
Une fois qu'il aura vidé vos comptes...
Je pense qu'il va soit liquider la société, parce que moi, a priori, je vais pas la récupérer. Il faut que je refasse soit une nouvelle société, soit que je fasse une procédure en jugement de nullité pour être remboursée de tout ce qui a été pris. Mais c'est des procédures qui sont très longues. Donc, aujourd'hui, clairement, je...
Vous ne pouvez plus travailler. Vous ne pouvez plus facturer. Vous ne pouvez plus vous verser de salaire. Non. Vous ne pouvez plus rien faire.
Je ne peux plus rien faire.
Vous ne pouvez plus rien faire.
J'ai perdu ma société du jour au lendemain. J'ai perdu 4 ans de travail.
Arthur.
Ouais, je remarque quand même une chose, c'est que l'État protège de moins en moins bien nos données. Et c'est paradoxal, parce que d'un côté, on nous demande de passer au tout numérique. On a la facturation électronique, évidemment. Cet été, il y a eu la fuite des directions générales des finances publiques avec des données personnelles très confidentielles de milliers de Français. À mon aîné, on ne peut pas construire des cathédrales juridiques qui sont censées nous protéger, puisqu'en fait, c'est ce qu'on fait. La grande directive européenne, c'est la directive NIS2 qui était censée être le pare-feu à tout. Mais le problème, c'est qu'on fait que des règlements, mais rien d'opérationnel. Or, on ne combat pas les hackers et les fraudeurs avec des règles, mais avec des hackers et des combattants. Et ça, c'est le grand point noir, l'angle mort du combat contre
le vol. Que vous a-t-on répondu au tribunal de Nanterre?
Alors, le tribunal de Nanterre, je les ai eus hier, donc au bout de 48 heures. Donc, j'ai fait un premier mail le mardi soir, très tourné, très procédurier, en demandant quelle procédure exacte avait été menée. Je demandais accès aux documents, voir le faux PV d'Assemblée Générale, voir ma fausse lettre de démission. Donc, ils m'ont recontacté hier en me demandant donc le dépôt de plainte que j'ai envoyé. Donc là, ça suit son cours, mais ils sont pas en mesure de me donner un délai.
Et la banque, elle est fautive aussi.
La banque est fautive aussi, mais en fait, elle doit attendre un jugement en nullité du tribunal de commerce et du greffe de Nanterre pour soit geler les actions de ce monsieur sur mon compte, soit me redonner les accès. Mais c'est pareil, ça se fait pas. Donc la banque, je les ai eu 10 minutes en ligne en 3 jours. Ils sont complètement
aux abonnés absents.
Oui.
Clara, est-ce que vous avez pu remonter le fil pour essayer de comprendre quel document au départ? Est-ce qu'il y a eu une vol de données? Est-ce qu'il y a eu... Qu'est-ce qui a permis à cet individu de se faire passer pour vous, enfin de vous usurper votre entreprise?
Alors je pense, d'après ce qu'a l'air de dire le commissariat, qu'il a récupéré ma carte d'identité, ce qu'il en a besoin au greffe pour valider une lettre de démission d'un ancien dirigeant et un procès-verbal d'AG. Donc il a récupéré ma carte d'identité, je ne sais où. Moi je l'ai pas envoyée en ligne à part effectivement pour une mutuelle au printemps, qui a eu, je crois, après un piratage au mois de mai.
Voilà.
Toujours la même chose.
Voilà.
Je pense qu'il l'a récupéré ici. Enfin, c'est ce qui semble se dessiner. Mais en tout cas, il a eu accès à ma carte d'identité. C'est ce
qui
lui a
permis. Appelez à une très grande vigilance, à davantage de contrôle. Merci d'avoir partagé avec nous ce matin votre expérience. Bon courage.
Merci beaucoup.
Dans les méandres désormais de votre combat, Clara Robert. Je rappelle que vous êtes architecte d'intérieur et décoratrice, et donc désormais à la tête d'une entreprise fantôme qui a donc été piratée, volée pour vous. Merci à vous. N'hésitez pas d'ailleurs au 3216 à nous appeler si ça vous est arrivé ou si vous avez eu ce genre de soupçons. Venez également réagir. Il est 7h18 sur RMC. Virginie est avec nous, qui nous appelle de Vendée. Bonjour Virginie.
Bonjour Apolline.
Virginie, vous avez une très très bonne nouvelle.
Mais oui, je vais voir Céline Dion dans
4 jours. Oh là là, je suis tellement jaloux.
Oh là 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 là. Extraordinaire. Vous êtes infirmière au bloc opératoire à l'hôpital à La Roche-sur-Yon. Vous y allez avec qui?
Je vais avec mes meilleurs amis, avec ma sœur. Ça va être formidable.
Oh, j'adore, j'adore. Et donc, vous avez entendu ce matin, depuis le petit matin sur RMC, on chante.
Oui, c'est ça. Mais alors, moi, je chante aussi. D'ailleurs, je vais dire à Clément qui m'a appelé dans ma voiture. Alors que j'écoutais Céline Dion à fond, ça suffit maintenant.
Il ne faut pas vous déranger quand vous écoutez Céline Dion à fond. Ouais, c'est-à-dire que là, vous allez vous mettre dans une bulle Céline Dion pendant les jours qui viennent.
Alors, ça fait déjà plusieurs semaines depuis qu'on a les places, en fait. Et au travail, j'avoue qu'ils en ont un peu marre. Ils en ont un peu marre parce que j'écoute Céline Dion très, très fort. Bon, avant que les patients rentrent en salle, hein.
Bien sûr,
mais ça peut les détendre.
Moi, je trouve, avant une opération, honnêtement, ça ne peut pas faire de mal.
Oui, moi qui hurle ma prière païenne, non, ça ne va pas les détendre.
Oh là,
donc.
Ah ouais. Quelle bonne chanson.
Et en famille, ça va? Ils vous acceptent encore?
Ah bah ma fille qui a 4 ans et demi connaît la discographie de Céline Dion par cœur, donc c'est cool. Je l'emmènerai dans 10 ans si elle fait les concerts.
C'est la France Céline Dion, littéralement la France Céline Dion dans laquelle on rentre pour plusieurs semaines. Merci Virginie, on pensera très fort à vous mardi. N'hésitez pas à nous appeler mercredi pour nous raconter comment ça s'est passé. Bonne journée à vous. Il est 7h20 et à 7h20 c'est l'heure de remonter le temps comme chaque jour avec Arthur Chevalier. Arthur, de quoi nous parlez-vous ce matin?
Eh bien, je vous parle de Donald Trump qui propose 5 000 $ à tous les citoyens américains adultes, si et seulement si ils gagnent les élections législatives. Donc c'est le populisme le plus grotesque, mais ça n'est pas inédit puisque Jules César a inventé les distributions d'argent pour séduire les classes populaires.
Donc Donald Trump, c'est le nouveau succès.
Exactement.
César. Il y aura aussi Arnaud Demange qui arrive pour pirater le face-à-face. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h21, on remonte le temps, comme chaque jour, avec Arthur Chevalier. Arthur, écoutez ce que dit Donald Trump, voilà ce qu'il promet. Il promet...
I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
$5,000. 5 000 $, voilà la somme que Donald Trump promet donc de verser à tous les citoyens adultes des États-Unis, mais à une condition.
Oui, et cette condition, c'est que le Parti républicain, donc le parti de Donald Trump, remporte les élections législatives de début novembre, les fameuses midterms. Mais attention, pour empocher la somme, il faut qu'il gagne à la fois la Chambre des représentants et le Sénat. Alors c'est un montant faramineux pour cette opération, 1350 milliards de dollars. Et Donald Trump est resté très vague sur le financement, évidemment. Il s'est contenté de dire que cette somme pourrait être reversée grâce, je cite, à nos succès économiques, comme un dividende si vous préférez. La réalité, c'est que Trump a surtout de très mauvais sondages et c'est un peu tout ce qu'il a trouvé pour remonter la pente.
En d'autres termes, il essaye d'acheter l'élection.
Ah bah, il n'y a pas d'autre mot là. Distribuer de l'argent, c'est le stade ultime du populisme. La méthode n'est pas nouvelle. Et c'est une invention de Jules César, car figurez-vous que César, c'est le modèle originel de Donald Trump. Lui aussi était issu de la haute société, et lui aussi fondait sa popularité sur sa proximité avec les classes populaires. Et alors, il ne reculait devant rien pour leur plaire. Pour célébrer ses victoires militaires, il organisait des grandes fêtes à Rome, des fêtes où il distribuait donc des milliers de pièces de monnaie à son effigie. Mais il y a encore plus fort, puisque sur son testament, César a légué 300 sesterces par personne. Les sesterces, c'est la monnaie romaine. Donc 300 sesterces aux citoyens les plus modestes de Rome. 300 sesterces, ça faisait à peu près 1000 euros par personne. Populiste jusque dans la tombe.
Les rois de France ont tenté d'employer la même méthode.
Mais oui, avec l'argent, on se fait aimer. Nos rois l'avaient bien compris. Quand ils arrivaient dans une ville de France, en voyage officiel, si vous préférez, c'était évidemment toujours un événement. Et c'est à cette occasion qu'ils distribuaient des pièces d'argent et des pièces d'or en les balançant comme ça à la foule. Ça faisait plaisir à tout le monde. Mais enfin, c'était surtout un bon moyen de faire venir les gens aussi, forcément, quand on les paye. Et puis, ça montrait que le roi était bon, généreux avec son peuple. Et avec les pauvres.
Aujourd'hui, ça se pratique encore ou pas?
Alors, en fait, quand même assez rarement, mais ça arrive. Et une des dernières fois où c'est arrivé, c'était déjà aux États-Unis. En 2001, après l'explosion de la bulle Internet qui avait fait beaucoup de dégâts, le président George W. Bush avait envoyé des chèques aux Américains. Alors, des chèques qui étaient censés correspondre à un remboursement d'impôts. Un remboursement, en fait, qui n'était justifié par rien. C'était surtout un cadeau purement électoraliste. Mais là, ce que fait Trump, c'est autre chose, puisque c'est promettre de l'argent avant un vote, ce qui revient à essayer d'acheter l'opinion et la démocratie.
Promettre qu'on va annuler une partie de la dette, c'est aussi une forme de
cadeau. C'est moins sonnant et trébuchant,
oui, mais c'est une forme d'achat de l'élection présidentielle.
Bien sûr.
Et effectivement, c'est passionnant. L'histoire en écho à l'actualité tous les jours avec Arthur Chevalier. Il est 7h24, c'est l'heure d'Arnaud Demange.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Salut,
et bonjour.
Dans le face-à-face tout à l'heure sur RMC et BFM TV, je recevrai Thierry Breton, l'ancien commissaire européen et ancien ministre de l'économie.
Eh oui, Thierry Breton. Thierry Breton qui n'est pas breton,
non,
d'ailleurs.
Non, il n'est
pas. Ça marche pas à chaque fois. C'est comme Manu Le Chypre qui n'est pas de Chypre.
Non.
Alors qu'Arthur Chevalier, il est vraiment chevalier.
Oui, bien sûr.
Alors, on parle de Thierry Breton comme candidat pour 2027 et c'est une nouveauté cette saison dans votre face-à-face, Apolline. RMC s'associe à la Française des Jeux pour le bingo des invités.
Et oui, un bingo qui aura lieu dans une heure chez Apolline. Et chers auditeurs, vous pouvez encore jouer en cochant les cases de votre grille. Que va dire Thierry Breton ? Plusieurs possibilités comme « Écoutez, je n'exclus rien pour 2027 » ou bien « Si les conditions d'un rassemblement sont réunies, pourquoi pas, mais on n'en est pas là ». Ou encore, non, en fait, je vais rallier Gabriel Attal, parce que je suis breton, alors la tournée des 1000 bistrots, ça me parle forcément un peu.
Très bien, cette case-là.
Oui. Non, ça le ferait un peu, en plus. Thierry Breton, on dirait Jean-Louis Borloo, qui a fait une bonne nuit de sommeil, ça lui correspondrait bien.
C'est bon.
Non, mais c'est vrai.
Alors, le gouvernement planche sur un nouveau budget. Aux abris! Oui. Tous aux abris! Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de demander au gouvernement qui a fait exploser la dette de trouver une solution? Sur la dette, hein? Est-ce que t'as envie de te faire opérer du bide par le chirurgien qui a oublié ses ciseaux à l'intérieur la dernière fois? Le lien de confiance est rompu quand même. Manu Le Chypre me disait dans les couloirs, tu confies Google au gouvernement, en 6 mois c'est Wanadoo. Thierry Breton appelle à réguler l'intelligence artificielle. Alors cette semaine, c'était flippant, vous avez vu, il y a plein d'ingénieurs spécialisés qui ont annoncé que l'IA pourrait exterminer l'humanité parce qu'elle devient trop intelligente. Ça ne m'inquiète mais tellement pas. Ça fait longtemps qu'elle est déjà plus intelligente que les Français déjà. Vous avez vu notre classement PISA ?
Oui.
Nous, l'intelligence artificielle nous a dépassé depuis Windows 95. Donc, après, avec Thierry Breton, vous allez parler économie, budget et tout. Mais soyez honnête, Apolline, avec vous-même. Je sais que tout du long, vous allez avoir envie que ça se termine pour retourner chez vous, préparer le concert de Céline Dion. C'est sûr que vous allez faire. Thierry Breton, le budget, c'est si compliqué ? Mais Madame de Malherbe, soyons sérieux. En ce qui concerne le budget, s'il suffisait d'aimer... Non, pardon, Madame de Malherbe. En tout cas, il y a une direction pour réduire la dette. Moi, si j'étais candidat, j'irais où tu iras, où paye sera toi. Et vous allez enlever vos talons et chanter dans votre godasse comme avec un micro. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Allez, courage, Apolline. C'est bientôt le week-end spécial Céline Dion. En attendant, rendez-vous avec Thierry Breton, c'est 8h30.
Ce sera 8h30. Dans un instant, la météo et le journal. Et juste après, le grand entretien du vendredi, c'est le patron des laboratoires Sanofi qui répond à mes questions. On va parler santé, évidemment. Santé, budget, emploi, industrie et la France qui décroche vis-à-vis de ses voisins. Allez, à tout de suite, il est 7h27. 7h30 et c'est une France coupée en deux, Géraldine.
Avec un petit peu de pluie qui arrive, alors pas beaucoup, hein, ça changera pas grand-chose à la sécheresse, mais on a cette petite perturbation qui arrive par les côtes de la Manche, qui va légèrement s'enfoncer cet après-midi vers les Pays de la Loire, vers l'île de France. Mais sur les trois quarts du pays, c'est du soleil, avec toujours du vent près de la Méditerranée. Température contrastée ce matin, cet après-midi, on repasse au-dessus des normales de saison, il fera souvent 21 à 26 degrés, plutôt 27 à 30 près de la Méditerranée, les températures qui vont encore s'envoler pour le week-end.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
7h30 sur RMC, le journal de Victor Pochet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Le gaz suit les carburants, mais les Français, eux, pourront-ils suivre cette nouvelle augmentation du gaz annoncée hier, plus 6,3% au 1er octobre pour 6 millions de ménages qui limitent leur consommation sans voir baisser les factures. Des malades qui passent des mois en arrêt, mais qui ne voient aucun médecin. L'État s'apprête à publier 2 décrets pour enrayer les fraudes. Et puis le foot, belle soirée de Lens en Ligue des Champions, 3-2 contre Prague, et déjà la crise qui guette à Marseille en cas de 3e défaite consécutive en Ligue 1 ce soir à Rennes.
Les mois se suivent et se ressemblent pour vos factures de gaz.
Si vous faites partie de ceux dont le contrat est calé sur le fameux prix de référence, hausse en août, hausse en septembre, et devinez quoi, on l'a appris hier, hausse en octobre, plus 6,3%, soit environ 5 euros par mois, une goutte de plus, pas loin de faire déborder le vase des clients que vous avez rencontrés, Alfred Orange.
le voir pour le croire.
Quand j'ai vu la courbe, j'étais stupéfait.
En épluchant sa facture de gaz, José pensait recueillir le fruit de ses économies, lui qui a arrêté en début d'année de chauffer son pavillon la journée.
La consommation, elle est deux fois moindre, mais la facture, elle est toujours pareille.
Autour de 100 euros par mois, même tarif pour Marion qui n'a qu'une supplique.
Faut que ça s'arrête à un moment. Si tout augmente, au bout d'un moment, ça ne rentrera plus.
Et c'est exactement la conclusion à laquelle arrive Laura Boulangère avec son four à pain qui marche au gaz.
On ouvre à 3h du matin. On ferme, il est presque 20h. La préparation de l'écran pâtissière, tout ça, j'ai le gaz pour ça aussi.
Si cette hausse dure, elle sera contrainte d'augmenter le prix de son pain.
On part d'une augmentation de peut-être 10 centimes, 5 centimes. Le but de tout commerce aussi, c'est de vivre aussi.
Avec un détroit d'Ormuz toujours bloqué, le prix du gaz devrait encore augmenter dans les prochains mois, prévient Céline Stein, directrice générale du fournisseur d'énergie Octopus.
Notre estimation pour novembre, c'est qu'il y aura encore une augmentation de 5%.
Cette spécialiste conseille aussi de souscrire à une offre fixe pour se préserver temporairement de ces hausses successives du prix du gaz.
Et colère qui monte aussi sur les prix des carburants. La barre des 2,30€ le litre franchie pour le gazole, 2,12€ pour le sans-plomb 95, à tel point que de nombreux internautes appellent à des manifestations. On y reviendra dans le journal de 8h. Au rayon des mauvaises nouvelles économiques, l'INSEE a revu hier à la baisse sa prévision 2026 de la croissance française, revue à 0,4%. Tout ça en pleine élaboration du budget de l'État. Le gouvernement multiplie les pistes d'économie et les décrets de l'une d'elles vont être publiés d'ici quelques jours. Cela concerne les arrêts maladie. Alexandre Thibault avec un tour de vis du gouvernement.
Avec d'abord des sanctions pour les arrêts de courte durée. Le but est d'éviter le nomadisme médical quand on passe d'un médecin à l'autre pour obtenir plusieurs arrêts maladie d'affilée. Les abus pourront donc être pénalisés par l'assurance maladie. Et puis un durcissement des règles pour les arrêts de plus de 6 mois en dehors d'une affection longue durée. Il n'y a pas toujours de suivi médical, constate le gouvernement, selon qui, par exemple, un patient sur 3 arrêté pour des troubles musculo-squelettiques n'a pas vu un kiné dans l'année. La durée d'indemnisation passe donc de 3 à 1 an. En clair, moins d'indemnisation, mais plus d'accompagnement médical. Le diagnostic est bon, mais la solution est mauvaise, glisse un médecin, pour qui on généralise la sanction au lieu de traiter les abus au cas par cas.
Et c'est dans ce contexte que la CGT publie son chiffre annuel des morts par accident du travail. 783 en 2025, assure le syndicat qui dit se baser sur les données de l'assurance maladie. C'est un nouveau record. La justice va procéder le 2 octobre prochain à une reconstitution de la nuit de la mort de Delphine Jubilard. En présence de son compagnon Cédric Jubilard, poursuivi pour meurtre, son procès en appel est attendu à partir du 30 avril, reporté en juillet dernier après des aveux surprises. 6 mois ferme pour un parent d'élève du Fauga en Haute-Garonne. 6 mois de prison, condamné pour avoir menacé l'enseignante de son fils en CM2. Menace, je cite, de lui couper la tête. L'enfant va devoir changer d'école comme le prévoit une nouvelle mesure en vigueur. C'est une nouvelle saisie record. 3,9 tonnes de cocaïne découverte au port de Dunkerque. Le PNACO, c'est le parquet national anticriminalité organisée, s'est saisi de l'enquête. Et pour cause, la valeur marchande de cette saisie est colossale, Constance Bostoen.
Près de 225 millions d'euros. C'est la valeur de ces 167 ballots de cocaïne découverts dissimulés dans des déchets de plastique à l'intérieur d'un conteneur en provenance du Ghana et à destination d'Anvers. Les membres du réseau criminel responsable de cette importation de drogue n'ont pas encore été identifiés. Sur les réseaux sociaux, David Amiel, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, s'est félicité de cette saisie significative. Fermer toutes les portes et toutes les fenêtres aux trafiquants, c'est ce que nous faisons, écrit-il. Les trafiquants ne relâchent pas leurs efforts et nous non plus. Pour rappel, l'année dernière, plus de 108 tonnes de stupéfiants avaient été saisies par les douanes, tous produits confondus, pour une valeur estimée à plus de 2 milliards d'euros.
Au moins 8 blessés dans des frappes russes à Kiev. Cette nuit, les autorités ukrainiennes parlent de l'incendie d'un immeuble résidentiel de 9 étages. La population est appelée aux abris. Le sport, le foot et le miracle lensois en Ligue des Champions. Hier soir, mené 2-1 par le Slavia Prague à la 91e minute, les sang et or ont finalement marqué 2 buts en 2 minutes pour l'emporter 3-2. On espère autant de spectacles pour le début de la 4e journée de Ligue 1. Rennes reçoit un Olympique de Marseille déjà au pied du mur. Il faut éviter la 3e défaite en 4 matchs, Florent Germain.
Oui, l'OM est déjà sous pression. Après deux défaites consécutives, Marseille fait face à un calendrier compliqué en Ligue 1. Déplacement à Rennes ce soir avant le choc contre le PSG dimanche prochain. L'entraîneur Bruno Genesio préfère ne pas céder à la panique.
Il n'y a pas de peur. On est lucide sur notre début de saison en termes de résultats. On a aussi des qualités pour poser des problèmes à cette équipe rennaise qui est en forme, qui a fait un très très bon début de saison. On sait aussi que sur un match, on est capable de les inquiéter.
Une nouvelle défaite mettrait pourtant l'OM dans une situation déjà inquiétante. Alors que la saison ne fait que commencer, l'attaquant Amine Harit garde confiance.
Il y a des choses encore à régler, comme le coach l'a dit, on travaille dessus toutes les semaines. Quand je vois la semaine d'entraînement, je ne vois pas un groupe abattu ou apeuré par ce qui arrive. On est concentré, on va faire le maximum pour prendre le plus de points possible d'ici la trêve.
D'ailleurs, Genesio a annoncé qu'il ne ferait pas de grands changements dans sa composition d'équipe. Le staff de l'OM espère une réaction dès ce soir en Bretagne.
Et ce sera à suivre sur RMC, évidemment. Coup d'envoi 20h45.
Et puis le quintet, Victor.
Les courses à Vincennes, 20h15. Pronostic de la Dream Team des courses RMC. Son favori, c'est le 3, Enjoy the Moment. Son outsider, le 7, Destino DJ, le 3 et le 7.
C'était le journal de Victor Porcher. Il est 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Vieillissement de la population, financement de la sécu, investissement industriel, voilà le grand défi de la France face à la santé. Bonjour Charles Wolf, merci d'être mon invité pour la grande interview du vendredi. Vous êtes le directeur France de Sanofi et vous êtes également le représentant d'Initiative Pharma, c'est ce syndicat des industries pharmaceutiques. Sanofi, c'est un mastodonte de la santé dans le monde et vous prenez très rarement la parole dans les médias. Merci d'avoir choisi RMC ce matin. Il y a notamment la question de la souveraineté, Emmanuel, dans ce secteur qui est primordial, hein.
Et oui, la question c'est, on a perdu en compétitivité sur les médicaments, mais qu'est-ce qu'il faut produire? Est-ce qu'il faut produire tous les médicaments en France? Notre prix Nobel Jean Tirole, il dit ça sert à rien de produire du Doliprane, donc qu'est-ce qu'il faut privilégier comme production française?
Je vous pose la question évidemment dans un instant, votre regard et ce qu'il se passe aujourd'hui en France face à la santé. Charles Wolf, dans un instant, 7h38.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h41 sur RMC et RMC Story. Et parmi les défis, les nombreux défis de la France aujourd'hui, il y a cette question, quelle santé, quels médicaments pour la France de demain? C'est l'une des questions qu'on va se poser avec vous ce matin. Charles Wolf, bonjour. Vous êtes le patron France de Sanofi. Vous présidez aussi Initiative Pharma. Ça représente les principaux acteurs de l'industrie pharmaceutique, ceux qui ont choisi la France. On peut encore choisir la France quand on est dans l'industrie pharmaceutique?
C'est pas facile, mais nous on a fait le choix de la France et on porte cette voix très singulière, et surtout on porte le choix de la France pour les médicaments d'aujourd'hui et de demain. C'est très important que non seulement on ait effectivement une production des médicaments actuels sur le marché en France pour des raisons de sécurité sanitaire, d'accès aux médicaments pour les patients français, mais c'est encore plus important d'avoir les technologies d'avenir qui se produisent sur le sol français. Ça c'est clé.
On a de très nombreuses questions à vous poser ce matin sur effectivement la santé, sur l'avenir du médicament, sur l'industrie pharmaceutique aussi en France. Mais avant de commencer, on a appris hier ces chiffres catastrophiques pour la croissance française. Ce sera moins de la moitié de ce qui était initialement prévu. On s'oriente vers un plus 0,4. Et c'est surtout ridicule vis-à-vis de nos voisins qui, eux, face aux mêmes difficultés conjoncturelles, internationales, s'en sortent deux fois mieux. La France, aujourd'hui, malade de l'Europe du point de vue de l'économie. Quelles conséquences ça a pour vous au quotidien?
Pour nous au quotidien, c'est les pressions, je dirais, qui deviennent délétères avec les autorités sur les discussions de budget du médicament. Il y a une réalité. La réalité, c'est quoi? C'est le vieillissement de la population. On a besoin d'avoir une population qui soit accompagnée dans son vieillissement pour vieillir en bonne santé. Pour ça, on a besoin de plus de professionnels de santé. On a aussi besoin de plus de médicaments innovants qui vont traiter des cancers, qui vont accompagner.
Ce qu'on voit dans les chiffres, c'est qu'il y a une baisse de l'investissement des entreprises. Et qu'il y a aussi un recul de l'effort de recherche et développement.
Tout à fait. Et ça, pourquoi ça a chuté? Parce que les conditions d'accès en France sont pas bonnes pour les patients et sont pas bonnes pour les entreprises, et ce qui crée un gap de compétitivité de la France par rapport aux autres pays. Donc là où l'industrie française de santé était leader en Europe, on est passé numéro 5. Là où dans les essais
cliniques... En combien de temps?
En 20 ans. L'industrie, c'est en général les cycles longs. Et c'est là où on se confronte à des débats budgétaires qui sont comment on passe les 3 prochains mois. On va pas réindustrialiser.
En fait, il y a un décalage entre le côté né sur le guidon de nos politiques et vos investissements de long terme.
C'est ça.
Vos choix de long terme, voilà. Vos stratégies de long terme.
Et on en discutait tout à l'heure dans les couloirs. Il y a un élément. J'entends souvent, il n'y a pas de marge de manœuvre.
Cette interview, je dois le dire, a commencé en fait dans le couloir entre Emmanuel Lechypre et effectivement le patron de Sanofi. En rentrant, vous parliez effectivement de ces chiffres. Vous, ça vous inquiète? Comment vous vous projetez? Vous continuez à vous projeter en France?
Difficilement, mais en tout cas, on essaie de faire bouger les lignes. Et bouger les lignes, c'est quoi? C'est faire comprendre aux politiques, qu'ils soient au gouvernement ou les parlementaires, de faire comprendre qu'il faut changer de programme, qu'il faut passer à une réflexion de long terme. Et pour ça, il faut prendre des décisions qui soient ciblées, qui préparent l'avenir. Donc, les problèmes des Français, ils sont très concrets. Quand on dit un médicament n'est pas accessible en France, c'est quoi par rapport aux Allemands? Après une AMM européenne, en Allemagne, en 50 jours, le patient allemand, l'autorisation européenne, le médicament est approuvé en Europe, en 50 jours est disponible dans les pharmacies en Allemagne. En France, il faut plus de 500 jours. Concrètement,
500
c'est
500 jours pour transmettre, simplement pour passer de l'autorisation au à ça y est, il est dans les rayons.
À la décision de remboursement et donc
qu'est-ce
il est dans
que
les
c'est
rayons.
Cette qu'est-ce qui se passe pendant ces 500 jours?
On a des process, ok, on sait qu'on a des process en France, mais ça c'est une perte de chance pour les patients. C'est aussi pour nos industries, quand elles font le choix de mettre un centre R&D en France ou pas, c'est aussi un problème de recherche et développement, c'est un problème de compétitivité. Moi je peux vous dire que j'ai des collègues à Vitry qui ont développé des médicaments. Ils étaient scandalisés de pas pouvoir discuter avec leurs voisins en disant il est disponible en France alors qu'il était disponible en Italie, en Allemagne, etc. Donc ça, c'est une réalité pour les patients. Donc comment maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on a décrit un tableau un peu noir, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut très vite changer de programme sur la façon dont on réfléchit la politique du médicament en France. Il faut se dire, au moins, décidons maintenant de prioriser, de sanctuariser les médicaments innovants et souverains. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, un médicament est souverain, il doit être capable d'être lancé en France immédiatement, comme en Allemagne. Ça veut dire aussi, un médicament innovant et souverain, on va lui donner des conditions de prix qui lui permettent d'être attractif par rapport à d'autres marchés.
Mais c'est quoi un médicament souverain? C'est-à-dire que on a voulu symboliquement relocaliser la production de Doliprane, notre prix Nobel, Jean Tirole qu'on évoquait, dit ça sert à rien de s'acharner sur le Doliprane en France. On voit bien qu'on pourra pas tout faire. Donc il faut se spécialiser.
Est-ce qu'il faut choisir
sur certains médicaments ou sur certaines parties de médicaments.
Charles Wolff, je précise et je rappelle à ceux qui nous rejoindraient maintenant que vous êtes à la tête de Sanofi France. Allez-y.
Oui, vous avez raison, c'est pas suffisant. Il faut faire en priorité la relocalisation ou la localisation des technologies de demain. C'est ça qui fera que vous aurez une industrie qui est compétitive et qui permettra d'avoir des médicaments accessibles pour les patients français et qui contribuera à l'économie. Je vais vous donner deux chiffres. Les entreprises que je représente à travers l'initiative Pharma, aujourd'hui...
Les gros labos qui sont présents en France.
La Sécurité sociale nous achète des médicaments. Pour 1 euro qu'elle nous achète, donc 1 euro de dépense, nous, on contribue à plus de 2 euros au compte public à travers les charges sociales, à travers les taxes, etc. Pourquoi? Parce que on produit pour la France et le monde. Donc plus vous aurez une localisation des médicaments en France, et notamment des médicaments d'avenir, donc ceux qui vont durer dans le temps et qui vont permettre de trouver des nouvelles solutions aux patients, plus vous aurez une capacité de financement de votre système de santé.
Il y a Julien
sociale.
Qui nous a appelé de Montpellier, Julien qui est infirmier. Vous entendez le patron de Sanofi au micro de RMC ce matin. Vous, j'allais dire, qui êtes vraiment celui qui les distribue ces médicaments, qui les donne à vos patients et qui veille à ce qu'ils les prennent. Ça fait écho à ce que vous voyez?
Alors oui, et en plus moi j'habite à Celle-Neuve, je suis à deux pas du centre du pôle Sanofi Montpellier. Bon, ouais. Ça c'est une petite parenthèse. Mais après, non oui, mais le problème c'est que c'était fin des années 90-2000, on a décidé, alors les gens je sais pas pourquoi, de remplacer les médecines de diagnostic par les médecines de prescription. Et donc on a produit du médicament et on a totalement laissé tomber la recherche. Et c'est exactement pareil chez les médecins, c'est-à-dire qu'on a surmultiplié les généralistes et aujourd'hui on manque de spécialistes avec une population qui vieillit. Et donc tout vient de là.
Donc ça, c'est ce que vous constatez aussi, dire au bout de la chaîne, Charles Wolff.
Oui, en fait, c'est exactement comme l'a dit cet auditeur. En fait, on a besoin d'avoir une anticipation, une vision à long terme de notre santé. Le vieillissement de la population ne va pas s'arrêter demain. C'est pas pour les 3 prochains mois, c'est pour les 20 prochaines années. Donc il est urgent d'agir. Vous savez, aujourd'hui, moi, je discute avec les autorités, mais aussi certains partis politiques dans le cadre des présidentielles. Et ce qui me choque, c'est qu'ils sont tous dans une espèce de pause politique.
Mais justement,
il y a pas
c'est
pas de pause économique.
Parce que en fait, ce dont vous nous parlez ce matin, c'est de souveraineté. On ne peut pas dire que depuis 2 ou 3 ans en France, la souveraineté, c'est pas un sujet permanent.
Tout le monde en parle.
Choose France, les investissements étrangers, la souveraineté militaire, l'industrie. Est-ce qu'au niveau du médicament, c'est tout aussi important que notre armement ou que les investissements dans nos entreprises? Est-ce que vous vous sentez soutenu d'une part par les autorités dont vous parlez? Et deuxièmement, est-ce que vous les considérez à la hauteur des enjeux?
Alors, écoute attentive, oui. Dans les actes, je vois rien.
Rien du tout.
Et c'est ça le sujet. Et alors, j'entends
qu'il y a un temps politique. C'est le décalage permanent entre les paroles et les actes.
C'est une réponse très claire.
En fait, si vous voulez, le temps politique, ok, il est ce qu'il est, mais la santé des patients, le temps économique, les décisions d'investissement, d'industrie qui s'installent à droite ou à gauche, ça, c'est tous les jours. On ne peut pas avoir un temps politique qui congèle le reste. Le monde continue d'avancer autour de nous. Les Allemands réagissent, les Italiens réagissent, les Espagnols réagissent. Et que fait la France ?
Mais, Emmanuel. Alors, on entend beaucoup vos critiques sur l'environnement réglementaire, fiscal, incitatif à l'innovation, etc. Mais est-ce que c'est pas dédouaner un peu vite aussi les grands labos, peut-être de leurs erreurs? Regardez sur les épisodes Covid, etc. Les vaccins, Sanofi, ça a pas bien marché. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas en France aussi les talents finalement? Est-ce qu'on a laissé partir aussi les talents? Qu'est-ce qui fait qu'on est moins bon aussi? Est-ce que c'est juste environnement réglementaire fiscal?
Alors en fait, en recherche pure, il y a beaucoup d'expertise en France. Et ça, je pense que vous avez des centres de compétences en oncologie, en immunothérapie. Il y a aussi des centres d'expertise très forts aux États-Unis et aux Chine, et on travaille aussi avec eux. Le problème, c'est un problème d'échelle en France. Et c'est un problème d'attractivité, de compétitivité de nos marchés français et européens. Jusque-là, on était dans un monde où les frontières étaient ouvertes. Donc quelque part, quand on avait une capacité de développement en France, etc., on exportait. Maintenant, c'est fini.
C'est fini,
les,
ça.
Les US et la Chine sont partis sur ont décidé de redessiner les cartes de l'industrie de santé. Et la France et l'Europe, pourquoi? Parce que les US payaient les médicaments beaucoup plus cher que les autres pays. Donc, quelque part, ils payent la R&D, la recherche et le développement des médicaments du monde.
Donc et un aujourd'hui, jour, ils décident de cesser.
Oui,
c'est en fait ce que vous êtes en train de décrire dans le monde de la santé et du médicament. C'est aussi ce qui s'est passé du côté de la défense.
Tout à fait.
C'est la fameuse expression d'Emmanuel Macron, la fin des dividendes, c'est-à-dire cette idée que au fond les États-Unis payaient pour nous et que nous du coup on pouvait se concentrer sur d'autres choses. On a eu ce réflexe pendant longtemps, y compris sur la santé. Aujourd'hui, vous nous dites l'ère a changé. On est entré dans un nouveau monde. Ça n'est plus la mondialisation. C'est chacun pour soi.
Exactement. Et la question aujourd'hui, parce que on peut pas contrôler ce que font les États-Unis ou la Chine. Par contre, que peut faire la France et l'Europe? Prendre son destin en main.
Mais c'est là où on se retrouve confronté aussi, ce que disait Apolline, aux mêmes problématiques que dans d'autres secteurs comme la défense. C'est que face à des géants chinois et américains, vous avez quand même une sorte de fragmentation européenne qui font que finalement tous les grands labos européens jouent en deuxième division par rapport aux grands labos mondiaux.
Comment faire? Quelles armes? Comment on réagit?
Ça va être du cycle long. D'accord? Donc, au niveau de la France, commencer à faire le choix.
Déjà, faut se réveiller.
Voilà, faut se réveiller et faire des choix forts et non pas des choix aveugles, d'accord? Ou en tout cas, on laisse le truc tenir pour espérer que dans 3 mois, la situation soit meilleure. Elle ne sera pas meilleure, ni au niveau géopolitique, ni au niveau démographique. La deuxième chose ensuite, c'est probablement l'échelle européenne va être nécessaire. Mais déjà, il faut que la France se renforce dans l'échelle européenne. Parce qu'aujourd'hui, on perd beaucoup de terrain par rapport à nos voisins européens. Néanmoins, en termes d'expertise, en termes de vision de la santé, l'Europe et la France sont des forces. On a de l'expertise aussi.
Et quand vous regardez le résultat du classement PISA, notamment sur les sciences, est-ce que ça vous inquiète pour l'avenir, pour les talents d'avenir en France?
Ce qui m'inquiète, c'est... Alors nous, d'un point de vue recrutement, on arrive à trouver des talents en France. On a investi, on a 3 accélérateurs digitaux, notamment dans l'IA, etc. On a des compétences en France. Ce classement, bien sûr, il est inquiétant pour nos enfants.
Pour les générations.
Et après, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces rapports? On fait des rapports, ça va mal. Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, à nouveau, d'ailleurs, pour avoir lu quelques articles sur PISA, ça va être du long terme. C'est pas quelque chose, et pour avoir vécu dans beaucoup d'autres pays dans le monde, c'est des choses qui se règlent en 2 décennies.
On a vraiment un problème de rapport au temps. C'est-à-dire que, au fond, ce que vous nous dites, c'est qu'il faudrait avoir des dirigeants qui regardent, au-dessus du guidon et qui effectivement prennent des décisions de long terme. Or, nous sommes dans un calendrier qui est un calendrier électoral, politique, qui est un calendrier de l'immédiat.
Oui, mais ils peuvent bouger.
Ils peuvent bouger et vous êtes venu sur RMC pour alerter. C'était passionnant. Merci d'avoir choisi RMC pour vous exprimer ce matin. Charles Wolff, vous êtes le directeur France de Sanofi, président donc d'Initiative Pharma qui représente les principaux acteurs de l'industrie pharmaceutique en France. Merci à vous. Il est 7h54 sur RMC. Dans un instant, le bonus avec Mathieu Bélien. Le groupe mythique Oasis est de retour pour le plus grand bonheur de Géraldine Nemory, vous l'entendrez. Et puis à 8h10, cette enseignante menacée de décapitation par un parent d'élève. Émotion immense de la communauté enseignante. Nous serons avec le représentant des directeurs et directrices d'école qui sera sur RMC dans 10 minutes. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Le bonus, Mathieu, avec l'autre événement musical du week-end.
Il n'y a pas que Céline Dion.
Ouais.
Oasis est de retour, cette fois sur grand écran. C'est aujourd'hui que sort le documentaire Oasis Don't Look Back in Anger. 2 heures dans les coulisses de la tournée événement de 2025, celle qui a réuni les frères Gallagher, Liam et Noël, après 16 ans de brouille. On les voit répéter, se retrouver, plaisanter et surtout remonter ensemble sur scène, loin, loin de la séparation légendaire. C'était à Paris, Rock en scène 2009. Et alors justement, le groupe a publié une mystérieuse vidéo cette semaine, tournée dans la capitale. On y reconnaît une affiche du festival de 2009, mais aussi l'épicerie d'Amélie Poulain. Le chanteur mâche et jette une prune. Ah, c'est important parce qu'il avait jeté une prune sur son frère en 2009 avant de casser sa guitare préférée. Les fans ont tous la référence, n'est-ce pas Géraldine?
Exactement, le
Plumgate. Des fans qui voient déjà les premiers indices d'une nouvelle tournée européenne. Alors pour l'instant, aucune date n'est officiellement annoncée. Ça va venir, on vous tiendra au courant. Et Géraldine est au cinéma ce soir.
Géraldine a dit ça ce soir.
Exactement, je vous raconte.
Merci Mathieu. Il est 8h, tout pile, et c'est vendredi. Vous êtes bien sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. 2,30€ le litre de gasoil ce matin. Un cap est franchi et la colère commence à gronder avec des appels à manifester qui se multiplient ces derniers jours sur les réseaux sociaux. La date du 17 octobre circule déjà beaucoup, vous allez l'entendre. Pour ne rien arranger, l'INSEE revoit à la baisse ses prévisions de croissance et prévient que l'économie française est en train de décrocher. Alors c'est peut-être elle qui va nous sauver. On est à la veille du premier concert de Céline Dion à Paris. Vous allez voir que c'est comme le 24 décembre pour ses fans.
On franchit un nouveau seuil ce matin à la pompe.
Oui, le litre de gasoil coûte désormais 2,30€ selon les relevés du site carbu.com au moment où le baril de pétrole est à 106$ sur les marchés financiers. On frôle en fait avec des niveaux records. Le gouvernement a prévenu, vous le savez, dans la semaine, qu'il n'avait pas l'intention de généraliser les aides ni même de baisser les taxes. Et on voit bien que la colère monte, Romain Haug, pour RMC, puisque les appels à manifester se multiplient sur les réseaux sociaux depuis quelques jours.
Une exaspération que certains aimeraient voir se transformer en mobilisation.
Eh, je suis désolé, mais quand je vois ce genre de prix, j'ai qu'une seule envie, c'est de lancer la propagande. Hein. Propagande du gilet jaune comme à l'ancienne. Hein.
Alors pourrait-on voir renaître le mouvement des gilets jaunes? En ligne des visuels réalisés par intelligence artificielle Circule, ils montrent la place de la République ou les Champs-Élysées à Paris, noir de monde, avec déjà une date précise.
Samedi 17 octobre 2026. C'est un samedi et c'est les vacances, tout le monde peut être là.
Mais pour Sylvain Boulouk, historien spécialiste des mouvements sociaux, la situation d'aujourd'hui est bien différente de celle de 2018.
On n'est pas du tout en configuration puisque le pouvoir finit son mandat électif cette année, qu'il n'y a pas de réforme en cours. On voit mal un mouvement s'enclencher sans contestation initiale.
Pour l'instant, le mouvement n'est pas structuré et se cantonne à des initiatives locales, comme cette manifestation organisée par un ancien gilet jaune mardi prochain à La Rochelle.
Alors à ça, il faut ajouter le gaz qui va prendre encore un petit peu plus de 6% le mois prochain. Ça concerne les 6 millions de Français au tarif indexé sur les prix du marché. Une croissance aussi revue à la baisse par l'INSEE. On en parle beaucoup ce matin. On tablait sur 1% en début d'année. Bah, ça n'arrête pas de baisser depuis. C'est 0,4% maintenant. L'INSEE prévient que l'économie est en train de décrocher en fait par rapport à nos voisins européens. Ça fait beaucoup d'indicateurs dans le rouge. Il faut bien le reconnaître au moment de préparer le budget 2027. Sébastien Krebs, chef du service politique RMC. Vous êtes en direct avec nous ce matin. Le gouvernement s'attendait à un contexte difficile. Bon, là, c'est encore plus difficile que prévu.
Oui, parce que moins de croissance, c'est moins de rentrées fiscales pour l'État, moins d'emplois, moins de cotisations pour financer la santé et les retraites. Et donc, un déficit qui va continuer de se creuser. 2 fois moins de croissance qu'attendu en début d'année. Ça rend forcément caduque la cible du gouvernement d'un déficit à 5%. Les experts estiment qu'on sera pas en dessous de 5,2 voire 5,3. Ce sera donc pire que l'année dernière. Et ça resserre encore les marges
marge de manœuvre déjà limitée du gouvernement en pleine préparation de ce budget 2027, déjà présenté comme impossible à faire passer, sujet hautement inflammable à quelques mois de la présidentielle. D'où cette communication de crise du gouvernement, conférence de presse convoquée en urgence ce matin à Bercy, après déjà la lettre de Sébastien Lecornu adressée aux chefs d'entreprise cette semaine pour tenter de les rassurer sur sa promesse de n'augmenter aucun impôt. Il s'agit d'éviter la panique sur les marchés financiers, tout cela sous le regard attentif de l'Élysée, où Emmanuel Macron regarde de très près le bilan qu'il laissera au mois de mai, bilan déjà très entaché.
Et alors cette élection présidentielle là qui arrive, elle va encore s'accélérer la campagne ce week-end avec deux rendez-vous marquants. Il y aura d'abord la rentrée parlementaire du RN en présence de Marine Le Pen, ce sera demain au Touquet. Et avant ça, la fête de l'humanité qui commence aujourd'hui au sud de Paris en présence du communiste Fabien Roussel, officiellement candidat depuis quelques jours, et de l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, qui voudrait bien lui voler la vedette à Cyprien Pézeri. Il y aura un match dans le match.
Oui, les insoumis réclament même aux organisateurs proches des communistes la plus grande scène pour le meeting de Jean-Luc Mélenchon demain après-midi. Un petit bras de fer sur la logistique, car pour l'instant, le candidat LFI doit se contenter de plus modeste, le stand de son mouvement. Il y aura trop de monde, les allées seront saturées, glisse sourire en coin une petite main de la campagne. D'autant que Fabien Roussel lui aura bien le droit à la scène principale 2 heures plus tard. Désormais, à la fête de l'UMA, les insoumis sont chez eux, en osmose, atteint qu'un proche de Jean-Luc Mélenchon, alors que les sondages le placent loin, très loin, devant son concurrent. C'est notre fête et Mélenchon n'est qu'un invité, défend pour marquer son territoire un intime de Fabien Roussel, et publiquement pour l'heure le candidat insoumis retient ses coups, du moins en apparence, façon de faire comprendre, explique un député LFI, qu'on ne joue pas dans la même cour.
Un père de famille vient de passer une première nuit en prison près de Toulouse. Un homme jugé en comparution immédiate hier soir est condamné à 6 mois de prison ferme pour avoir menacé de décapiter une enseignante. Il était mécontent en fait d'une punition infligée à son fils en classe de CM2 et il a donc poursuivi l'enseignante jusqu'au parking de l'école du Foga. L'affaire rappelle évidemment les drames d'Arras et de Conflans-Sainte-Honorine. Et alors d'ailleurs, les enfants de ce père de famille vont changer d'école. C'est ce que fait savoir le ministère de l'Éducation. La loi le permet depuis peu, Célestin Bougère.
Oui, en application d'un décret paru cet été pour protéger les enseignants. Désormais, quand un parent menace ou agresse un personnel éducatif, il est possible de changer son enfant d'établissement scolaire. Les menaces de ce père d'un élève de CM2 devraient donc entraîner une des premières applications de ce décret, explique le ministre de l'Éducation. L'élève ainsi que sa petite sœur scolarisée, elle aussi à l'école du Foga, devraient très vite changer d'établissement selon la première adjointe de la commune. Actuellement, les enfants sont toujours accueillis dans leur école. Le temps pour l'inspection académique de leur trouver une place dans une commune voisine. Pour cela, il faudra l'accord du maire de la ville concernée.
Vous allez forcément voir aujourd'hui les images des commémorations des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. C'est à cette heure-là, à peu près, il y a 25 ans, que 19 terroristes détournés des avions, des drones vont recréer les tours jumelles dans le ciel de New York sans Donald Trump, le président américain qui n'assistera pas à la cérémonie à New York. Quatre présidents y seront, mais lui sera le grand absent. Ça, c'est l'événement de la fin de l'année en France. Et depuis le temps qu'on en parle, c'est demain, enfin, que Céline Dion va entamer sa série de 10 concerts à Paris, dans la salle de la Défense, 6 ans après sa tournée annulée. Ça fait 15 jours qu'elle répète. On ne sait toujours pas à quoi ressemblera la scène. C'est le grand mystère. Mystère que découvriront donc demain les premiers fans qui n'ont pas peur de faire beaucoup de route, Martin Bourdin.
Traverser la France du sud au nord, Montpellier-Paris, 4h30 de train. Un détail pour Grégory, beaucoup trop heureux d'être dans les gradins demain.
Même si c'était 20h, je les aurais fait de toute façon. Là, c'est Paris, et peut-être la prochaine fois Montréal, peut-être Las Vegas, on verra. On la suivra partout où elle ira. Moi, je suis surexcité, je suis monté sur ressort, je tiens plus en place. Qu'importe la place et qu'importe l'endroit. Je suis plus heureux du monde, quoi.
Juste à côté de lui, au pied de l'hôtel où séjourne Céline Dion, une fan venue d'encore plus loin. Tamatea a fait
22 000 km.
Arrivée mardi de Tahiti, spécialement pour le premier concert de son idole québécoise.
Pour nous, c'est miraculeux, quelque part. Elle a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir être sur pied, pour pouvoir chanter. Nous, notre seul effort, c'est faire des économies, manger pas de dessert pendant quelques mois pour pouvoir venir la voir et l'encourager. Je pense qu'on va pleurer samedi.
Les larmes aux yeux, Julie les a déjà, rien qu'à penser à ce grand retour.
Je me sens fébrile. C'est fou qu'elle revienne. J'aurais jamais pensé pouvoir dire qu'un jour, j'irai voir Céline Dion.
Un rêve qui se réalisera le 3 octobre pour cette Normande.
Genou plié, pas impossible, c'est
16 dates, hein, jusqu'au 17 octobre. On va l'entendre, hein, cette chanson, là, pendant le mois et demi qui vient. Il y aura 10 autres dates en mai l'année prochaine pour ceux qui n'ont pas réussi à avoir de place. Alors d'ici là, il se sera passé des choses en football. Hein, on en est à la 4e journée de Ligue 1. Elle commencera ce soir, 20h45. On vivra ça sur RMC avec une jolie affiche entre Rennes et Marseille. Hein, l'OM qui est déjà sous pression. Au lendemain de la victoire en Ligue des Champions de Lens, 3-2 chez le Slavia Prague. Fin de match incroyable. Il y a eu 2 buts dans le temps additionnel pour les Lensois qui doivent avoir le sourire ce matin au moment de se réveiller.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h08 sur RMC. Un père de famille condamné hier soir à 6 mois de prison ferme la semaine dernière dans la région toulousaine. Il avait menacé de décapiter l'enseignante de son fils qu'elle avait puni. Et en représailles, il l'a poursuivi jusqu'au parking de l'école et l'a menacé de la décapiter. Bonjour Thierry Pageau, vous représentez les directeurs et directrices d'école. Vous êtes en direct avec nous dans un instant. Après Samuel Paty, après Dominique Bernard, plus jamais ça. Voilà votre parti pris dans un instant, évidemment. Vous nous direz l'état d'esprit des professeurs, des directeurs d'école. C'est évidemment un choc à nouveau.
C'est un choc de plus. Le métier des professeurs change énormément. Ce sont un peu des soldats de la République maintenant, qui risquent leur vie.
Il est 8h09 et on en parle dans un instant. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
8h12 sur RMC et sur RMC Story. Écoutez cette phrase, elle est glaçante. Si t'étais un homme, je t'aurais coupé la tête. Voilà les menaces proférées par un père de famille à l'enseignante de son fils. Il l'a non seulement dit, mais il l'a redit, re-redit. Il l'a poursuivi jusqu'à l'intérieur de l'établissement et il l'a manifesté plusieurs fois, non seulement ces propos-là, mais également l'idée que son fils pourrait revenir avec un couteau. Ça s'est passé la semaine dernière dans la région toulousaine. Thierry Pageau est avec nous, secrétaire national du syndicat des directeurs et directrices d'école. Ce père de famille, il a été jugé en comparution immédiate, condamné hier soir à de la prison ferme, 6 mois de prison ferme. Est-ce que vous êtes satisfait après ce verdict ?
Oui, bonjour. Oui, nous sommes soulagés, car nous ne voulions pas que ce matin, ce père soit libre et puisse revenir dans cette école ou dans une autre école, en attendant que d'autres mesures soient prises. Donc nous sommes soulagés. Mais je tiens à dire qu'hier, nous avons été choqués, puisque l'information est sortie hier. Toute la communauté enseignante, en sortant de classe à 16h30, a pris cette nouvelle. Un choc, un effroi, avec des remontées partout, des coups de téléphone de partout. Mais qu'est-ce que c'est que ce père d'élèves aujourd'hui, après Samuel Paty, après Dominique Bernard? Qu'est-ce que c'est ce père d'élèves a pu dire? C'est intolérable.
Effroi dans la communauté éducative. Ça veut dire qu'en permanence, vous vivez, vous, les profs, sur cette ligne de crête de la peur qu'à un moment, ça revienne?
Oui, bien sûr. Les agressions physiques, les agressions verbales envers les directeurs d'école ou portail ou envers les enseignants ou envers le personnel de toute école existent, non pas quotidiennement, mais très fréquemment. Mais on n'avait jamais atteint un tel niveau de parole, un tel niveau de violence verbale depuis des années. Donc il fallait absolument que ce père d'élève soit sanctionné. Chose faite, nous sommes satisfaits ce matin, mais on se pose des questions sur qu'est-ce qu'être enseignant en 2026, qu'est-ce qu'être directeur d'école au portail le matin, au portail le soir. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Parfois, nous avons peur.
Oui, bonjour. Est-ce qu'il n'est pas temps, justement, de changer le regard qu'on porte sur l'école? Parce que si l'école change dans la pratique quotidienne des professeurs, des directeurs d'établissement, des personnels d'éducation, pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas qu'il y a des choses fondamentales à réformer? Puisque j'imagine que les professeurs ont le sentiment de, maintenant, un peu de risquer leur vie potentiellement, non? Enfin, est-ce qu'on n'est pas un peu en décalage avec la réalité d'aujourd'hui?
Ah, vous avez raison, hein, on n'est plus dans un monde de bisounours. Hein, voilà. Certains syndicats pensent que nous sommes dans un monde de bisounours, ce n'est pas du tout le cas. Nous faisons attention, on a des protections, on a des policiers municipaux dans les écoles quand il y en a dans certaines villes. On a des référents gendarmerie, on a des référents police nationale à appeler, on a des numéros d'urgence. Donc maintenant, tout directeur d'école doit avoir ses numéros en tête au cas où il se passe quelque chose. L'école est un sanctuaire, mais le portail de l'école n'est pas un sanctuaire. C'est ce qui s'est passé vendredi dernier à Fauga le prouve encore.
La professeure, elle est en arrêt maladie depuis, sous le choc, on l'imagine bien. Et cette décision, c'est le nouveau décret qui le permet désormais. Les enfants de ce père de famille, ils sont 3, vont être changés d'école. Alors le ministre de l'Éducation s'en réjouit, je voudrais que vous puissiez l'écouter et réagir ensuite. Parce que, est-ce que c'est vraiment la solution? D'abord on écoute le ministre.
Il y a des idées qu'on ne peut pas avoir, il y a des propos qu'on ne peut pas proférer. On ne touche pas un professeur, pas même un cheveu, on ne menace pas un professeur, encore moins de mort ou de décapitation ou que sais-je.
Et la conséquence, c'est donc, après ce nouveau décret, de déplacer, non seulement il y a la sanction contre le père, mais de déplacer les élèves. Est-ce que c'est la solution? On a l'impression que désormais, quand il y aura un problème, on va déplacer l'élève. Moi, je vous avoue, y compris en tant que mère de famille, je me dis, est-ce que c'est vraiment la réponse, c'est-à-dire déplacer cette famille? Il s'est excusé depuis le père, et l'enfant n'a pas forcément grand-chose à voir avec le père, même si, en l'occurrence, le problème était qu'il avait un comportement visiblement de caïd. Je cite les deux institutrices qui ensuite se sont fait menacer par le père. Faut-il simplement les déplacer? Y a-t-il d'autres solutions?
Alors, vous avez raison, ce décret du 28 juillet pose beaucoup de questions. Beaucoup de syndicats ont dit, effectivement, comme vous, que l'enfant pouvait pâtir de ce décret. Nous, on a fait une petite enquête interne auprès de nos adhérents. 995 adhérents ont répondu à 74% oui pour ce décret. Oui.
D'accord, pour ce décret. Donc, les directeurs et directrices d'école, ils disent que c'est quand même une bonne réponse.
Ouais, mais Thierry Pajot, l'idée, on a l'impression que c'est un peu comme quelqu'un qui va être nul dans une entreprise. Pour s'en débarrasser, on lui donne une promotion et puis le problème retombe ailleurs parce que ce gamin, il va encore faire le caïd dans l'autre école.
J'imagine que si vous soutenez cette idée, c'est une bonne solution. Allez-y.
Voilà, c'est qu'auparavant, il y a eu un dialogue. Alors attendez, ce monsieur qui profère des menaces de décapitation, on est au summum de l'horreur. Il y a bien sûr des parents qui sont parfois agressifs, parfois verbaux, donc on va avoir un dialogue avec eux, on va avoir une construction, il va y avoir une réunion, on va avoir une équipe pour travailler avec eux sur la façon dont ils se comportent, et c'est seulement après que ce décret pourra être appliqué. Ce décret, il date du 28 juillet, donc on n'a pas d'antériorité.
C'est la première fois qu'il est appliqué.
C'est la première fois qu'il est appliqué, donc on n'a pas d'antériorité. Mais là, s'il n'est pas appliqué dans ce moment où un père d'élève promeut de décapiter un collègue, quand est-ce qu'on va l'appliquer? Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais.
Ensuite, cet élève, il sera accueilli ailleurs, il va être suivi, il va y avoir une aide à cet élève. Mais je ne conçois pas que cet enfant, que cette famille puisse la semaine prochaine être à nouveau présent, que ce père, après son temps de prison, puisse à nouveau être présent. Donc oui, ce décret a été soutenu par notre syndicat, 74% de ses adhérents, et seulement 8% contre, avec quelques collègues qui étaient sans avis. Donc vous voyez, les syndicats qui disent qu'ils sont contre ce décret,
vous êtes, comme vous dites, à l'entrée des écoles. Vous êtes au portail, à l'accueil tous les matins. Et vous vous dites, de toute façon, il n'était pas envisageable que cette famille soit de retour sur les lieux, j'allais dire, les lieux du presque crime, de ces menaces lundi matin. C'est donc qu'il fallait de toute façon au minimum les déplacer et ensuite accorder, j'imagine, une attention et un accompagnement particulier. Un grand merci Thierry Pajot, parce qu'effectivement, vous parlez, j'allais dire, depuis l'entrée de l'école, depuis le très concret, depuis le terrain. Merci de votre réaction. Vous êtes le secrétaire national du syndicat des directeurs et directrices d'école. Il est 8h18 et c'est l'heure d'Arnaud de Manche.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de Manche. Bonjour les amis, comme vous êtes beaux ce matin. Comme vous êtes beau et intelligent.
Oh là là,
je suis ravi en vrai d'être entouré de gens aussi passionnants, cultivés, brillants, élégants, drôles. Et je vous dis la vérité, hein. Vraiment, je mens pas. Je vous dis ça parce que Marine Tondelier souhaite interdire le mensonge en politique.
Oui.
Bah, ça ne me concerne pas, vous voyez.
Non.
Donc elle veut l'interdire sous peine d'inéligibilité. Ça se fait au Pays de Galles. En France, bon courage.
Oui.
Marine Le Pen va avoir un bracelet électronique et un détecteur de mensonges à chaque déplacement. Faudra qu'elle se déplace avec une multiprise. Ça va être relou. Bah, il faudra toujours dire la vérité. Eh ben, Marine Tondelier, c'est pas comme ça qu'elle va conclure un accord électoral avec Jean-Luc Mélenchon, hein. Parce que si Marine Tondelier, elle se pointe en lui disant la vérité, toujours la vérité, l'autre il va dire non, hein, c'est pas son truc.
Non, c'est
après
pas
dans
son...
la vie,
je l'ai. Arnaud, je l'ai.
Ça, ce serait pas si mal qu'on se dise la vérité tout le temps pendant les rendez-vous Tinder, on gagnerait du temps, quoi.
Ah ouais.
Salut. En fait, pour être franc, j'avais pas trop envie de venir, mais je suis déprimé depuis ma rupture. J'ai pas pris de douche, j'ai mis un coup de déo, mais bon, tu me faisais un peu penser à mon ex, alors je suis là.
Bon bah écoute, moi c'est pareil, globalement tu me plais pas, mais j'ai un truc qui me stresse au boulot, donc si on ken 12 minutes dans le noir et que je peux penser à Ryan Gosling, j'aurais pas complètement perdu ma soirée.
Voilà, c'est un peu déprimant, mais c'est plus simple.
Oui, c'est honnête, quoi.
Ceci dit, j'y réfléchis, j'ai pas vraiment envie d'un monde où les politiques nous disent tout le temps la vérité, quoi. Ouais. Monsieur Attal, vous êtes content d'être à la braderie de Lille?
Écoutez, moi je suis un enfant de l'école alsacienne, je suis parisien. J'aime faire des afters au champagne dans des musées privatisés la nuit. Alors me taper 8 heures dans la journée des clones des tuches qui vendent des détritus sur le trottoir en bouffant des frites avec les doigts et qui se finissent à la 8-6, sincèrement, non, ça me dégoûte en fait. Pourquoi tu crois que je me bourre la gueule dans 1000 bistrots en ce moment?
Et Macron qui nous dirait la vérité.
Ah oui. Française, français, vous êtes nuls. Vous bossez pas, vous êtes réfractaires, vous faites pas de gosses. Ça vous plaît pas ce que je vous dis? Eh ben venez me chercher.
Oui, en fait, ça changerait pas tant que ça. Lui, on pourra pas l'accuser d'être malhonnête sur ce plan-là.
Ils disent ce qu'ils pensent. Alors aujourd'hui, aux États-Unis, ce sont les commémorations des 25 ans du 11 septembre.
Oui, un petit sujet feel good, oui, léger avant le week-end. On va pas que parler de Céline Dion. Donc c'est une journée un peu particulière, les 25 ans du 11 septembre. On se souvient tous de ce qu'on faisait ce jour-là. Alors moi, c'est vrai, je prenais mon premier cours de conduite.
C'est vrai.
J'étais nul. Il a failli avoir un troisième véhicule dans un immeuble ce jour-là. Je vous dis que ça. Des commémorations sont prévues à New York. Et alors, j'ai vu un truc. Des familles de victimes du 11 septembre demandent au maire musulman Zoram Mamdani, de ne pas participer. Non, mais c'est fou, quoi. Non, mais ça va. Je veux dire, il habite sur place. Il va pas venir en avion. Enfin, il n'y a pas de risque, quoi. Aucun risque.
Ah, très mal.
Alors, l'intelligence artificielle envahit notre quotidien, Arnaud.
Oui.
Deux nouvelles inventions ont été annoncées cette semaine, les taxis autonomes et les brosses à dents équipées de lions.
Oui, c'est utile, ça, les brosses à dents à IA. C'est même chouette, on va enfin pouvoir tous se partager nos vidéos de brossage de dents de l'intérieur. Alors, les ingénieurs ont testé cette brosse sur les dents de Jean-Luc Mélenchon. La brosse a bugué. Elle a fait « Non, mais c'est sur des dents qu'il faut m'utiliser, c'est pas sur un évier calcaire des années 50. » Alors, c'est 500 balles, ce truc. C'est cher, hein. Si t'es Michel Houellebecq, ça vaut pas le coup.
Non.
Et alors, vous le disiez, il y a aussi les taxis autonomes en IA qui arrivent. Ça, j'en ai pris, c'est génial. Alors, ce sera le plus proche possible d'un vrai taxi. C'est-à-dire que l'IA fournira une voix rauque qui dira « Le gouvernement, franchement, hein, monsieur. Hein, parce que, moi, je veux pas dire, hein, mais au bout d'un moment, bon, ça va, quoi. » C'est comme les vélos qui se croient tout permis. Au bout d'un moment, ça va, quoi. Bon, je vais mettre un petit coup de polish sur la carte mère. Ça sera exactement comme les vrais. Et la bonne nouvelle, c'est que les taxis autonomes, comme les vrais, diffuseront exclusivement RMC.
Ah,
on aura même l'intelligence artificielle dans les grandes gueules, même si elle est moins forte que Charles Consigny. Et alors, je me suis renseigné, il y a plein d'objets comme ça qui arrivent. Est-ce que vous saviez qu'on a inventé la salière connectée?
Quoi?
C'est super utile.
Elle est connectée à quoi?
Au poivrier, j'imagine.
Mais je sais pas trop.
Pardon.
Peut-être pour te prévenir qu'il faut pas en mettre 7 kilos sur un œuf sur le plat. Je sais pas. Il y a le rouleau de PQ connecté, ça c'est vrai aussi, avec un petit machin qui t'envoie un SMS quand il n'y a plus de papier.
Ah, donc t'es au boulot?
Alors que, en général, c'est-à-dire, c'est le genre de truc dont tu te rends compte toi-même en fait, normalement. Ou alors si t'es pas chez toi et que tu te reçois un SMS pour dire qu'il n'y a plus de papier, c'est qu'il y a un cambrioleur qui s'est mis très bien à la maison, mais il est coincé sur les toilettes, il n'y a plus de papier. Donc ça te laisse le temps d'appeler les flics qui vont l'arrêter en rigolant. Et j'ai vu, il y a le matelas connecté. Alors ça c'est nouveau aussi, c'est pas pour le sommeil, vous savez ce que c'est? En réalité, c'est un matelas qui t'apprend si tu te fais tromper. C'est-à-dire qu'il détecte une activité inhabituelle. Si, c'est vrai. Et il t'envoie un SMS pour te dire bah, désolé.
C'est pas normal, c'est le prof il est 14h30.
Je suis désolé, c'est le prof de tennis. Voilà. Merci les ingénieurs de la Silicon Valley. Grâce à vous, on passe de merveilleux week-ends et à lundi.
C'était Arnaud Demange. Il est 8h24 sur RMC et RMC Story. Dans un instant, mon invité, c'est l'ancien ministre de l'économie et commissaire européen Thierry Breton. La France qui décroche vis-à-vis de ses partenaires européens. On fait moitié moins bien que le reste de l'Union européenne. C'est pas mal. Thierry Breton répond à mes questions dans un instant. Merci d'écouter RMC. Il est 8h27.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Victor Pourchet.
Première nuit en prison pour un parent d'élève du Foga en Haute-Garonne. 6 mois ferme pour ce papa condamné pour avoir menacé de décapitation l'enseignante de son fils en CM2. Un enfant qui va devoir changer d'école, comme le prévoit une nouvelle mesure. La justice va procéder le 2 octobre à une reconstitution de la nuit de la mort de Delphine Jubilard en présence de son compagnon Cédric Jubilard, poursuivi pour meurtre. Son procès en appel attendu à partir du 30 avril, reporté en juillet dernier après des aveux surprises. L'économie française prend du retard sur ses voisins parce que notre croissance ralentit. Plus 0,4% prévision 2026 revue à la baisse hier par l'INSEE. Parmi les explications, évidemment, les finances publiques compliquées. Jour de deuil et de commémoration aux États-Unis pour les 25 ans des attentats du 11 septembre, anniversaire marqué par la publication par la nouvelle mairie de documents qui révèlent comment l'ancienne mairie a dissimulé les retombées de poussière toxique. Le foot et le miracle lensois, Ligue des Champions, mené 2-1 par le Slavia Prague. À la 91e minute, les Sang et Or ont marqué 2 buts en 2 minutes pour l'emporter, 3-2. On espère autant de spectacles pour le début de la 4e journée de Ligue 1. Rennes reçoit Marseille ce soir à 20h45, à suivre évidemment sur RMC. La météo, du soleil sur les trois quarts du pays, un peu de pluie ce matin vers la Manche qui glissera vers les pays de la Loire et l'Île-de-France dans l'après-midi. Côté température, comptez de 21 à Brest et Aurillac jusqu'à 29 à Montpellier et Perpignan. Il fera 25 à Bordeaux et Lyon.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
Et tout de suite sur RMC, le face-à-face, Apolline de Malherbe reçoit ce matin Thierry Breton.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Thierry Breton.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes ancien commissaire européen et ancien ministre de l'économie. Les chiffres sont carrément catastrophiques, on peut le dire. Et je parle pas que des chiffres de PISA. Je parle des chiffres de la France, de la croissance, de la consommation, de l'investissement. Tout ça, c'est en baisse. Le chômage, à l'inverse, est en hausse. Et la France apparaît comme l'homme malade de l'Europe parce que nos voisins font beaucoup mieux pour un même contexte. Comment c'est possible, ça?
Oui, ça nous fait pas plaisir, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que ça nous surprend? Absolument pas. La France est à l'arrêt. Bon, tout le monde le sait. Elle est à l'arrêt depuis la dissolution. Tout le monde le sait. Elle est à l'arrêt depuis maintenant un an. Tout le monde le sait. Elle est à l'arrêt parce qu'on a renoncé aux réformes les plus importantes, dont la réforme des retraites. Voilà, tout ça, ça a un coût, Madame de Malherbe. Donc, oui, on peut commenter, si vous voulez, ce matin, ce qui a été commenté, une croissance à 0,4. Là où je rappelle que le budget avait été fait à 1%, on l'attendait à 0,7. Ça fait tout de suite, par parenthèse, hein, 8 milliards de moins, tout de suite. Ça fait des trous, tout ça. Le fait qu'on n'ait pas fait la réforme des retraites, et qu'on l'ait mise au congélateur, puisqu'on maintenant on emploie ces mots. Très bien.
On gèle la dette et on met les réformes des retraites au congélateur.
Ben, rien que ça, si vous voulez, ça nous fait au moins 3 à 4 milliards de moins cette année. Ben, il faut les trouver ailleurs, alors qu'ils étaient prévus, ils étaient faits. C'était 10 milliards en année pleine. Et ben, il faut aller les chercher ailleurs. Donc, est-ce qu'on est surpris? Malheureusement, et je le dis avec énormément de tristesse, non. Mais on a des élections. On a des élections dans 7 mois. Donc, on va changer tout ça. C'est ça, le sujet des élections. C'est quel projet pour la France, pour la remettre sur des bonnes rails? Oui, vous avez raison. On est aujourd'hui le dernier élève de l'Europe. Et par parenthèse, on nous le fait payer très cher. Cette indécision, cette procrastination, c'est 4,43. Hier, 4,43 pour les taux à 10 ans.
C'est le taux auquel la France emprunte. Ça veut dire que quand on emprunte, ça nous coûte de plus en plus cher et beaucoup plus cher encore que nos voisins.
Mais je vais vous donner un petit chiffre. À chaque fois qu'on augmente de 10 points de base, avant précisément de dire qu'on allait faire un budget, on allait le proposer à 4,9%, alors qu'on avait fait une promesse une fois de plus à Bruxelles, c'est qu'il serait 4,3 cette année pour tenir nos engagements. Une fois de plus de déficit, on va pas les tenir. Quand on augmente de 10 points, c'est-à-dire qu'on fait finalement non pas 4,3 mais 4,4, 10 points, c'est tout simplement 350 millions de plus qui vont être en taux d'intérêt qu'on va payer, vous voyez.
En fait, c'est un cercle vicieux dans lequel on est en train de s'enfoncer. Thierry Breton, beaucoup de choses. Il y a ce qu'il faut changer, vous avez dit on va changer tout ça, élections doivent être ce moment-là. Il y a aussi quand même une question immédiate, vous avez été ministre de l'économie, le budget de la France, celui dans lequel on est en ce moment, c'est-à-dire les prévisions, la colonne recettes et la colonne dépenses, ils ont été écrits en imaginant des revenus en France avec une croissance de 1%, vous le disiez. Ils avaient déjà baissé au gouvernement, ils avaient quand même eu l'honnêteté de dire bon, finalement, ça ne sera pas 1%, ça sera 0,7%. Et finalement, ce sera 0,4%. Ça veut dire qu'au moment où l'on se parle, on est dans une situation qui est en réalité une situation déjà catastrophique, parce que rien ne correspond à ce qu'on avait prévu.
Mais, encore une fois, on n'est pas surpris. Mais les Français, ils le voient tous les jours. Le pouvoir d'achat, il baisse 0,4% de moins de pouvoir d'achat cette année. Quand ils vont faire leurs courses dans les supermarchés, ils voient que les produits frais, ils ont augmenté de 5,3%. Quand ils vont payer leur facture d'énergie, ils voient que ça a augmenté depuis cette année de 17,2%. Donc tout ça, effectivement, on le voit. Vous savez ce qui nous manque, Madame de Malherbe? Il nous manque de la discipline. Il nous manque de la discipline. La France est un pays riche. La France est un pays qui génère, on engrange tous les ans pour faire fonctionner l'État France, on engrange 1550 milliards. C'est énormément
mais
d'argent.
Mais la discipline à quel niveau? La discipline eh bien, où?
Pour retravailler ensemble. Retravailler ensemble. Moi, j'ai qu'un seul objectif aujourd'hui. C'est d'essayer de trouver le moyen pour faire en sorte que tous ceux qui croient en notre pays, et ils sont nombreux, et dans tous les partis politiques qui ont cet esprit de reconquête, de reconquérir le pays, de redonner de la confiance, eh bien, on se retrouve autour d'un seul projet, c'est de mettre de la discipline pour éviter que dans les débats qu'on a à l'Assemblée, fasse qu'aujourd'hui, on a une Assemblée qui est évidemment très éclatée, elle le sera encore, faut pas se tromper, après les élections, donc qu'on se dise comment on travaille ensemble. C'est pour ça que j'ai proposé cette trajectoire qu'on appelle règle d'or, on peut l'appeler comme on veut, c'est-à-dire nous dire que d'un point de vue constitutionnel, il faut désormais qu'on ait une trajectoire.
Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce que c'est que cette règle d'or qui désormais est prônée, y compris par quelqu'un comme Marine Le Pen, qui semble-t-il a dû écouter ce que vous disiez?
Je ne ménage pas mes efforts. Encore une fois, j'en tire aucun intérêt, aucune gloire, ni quoi que ce soit. Les Allemands l'ont fait en 2009. Alors qu'est-ce que c'est que ce qu'ils ont appelé règle d'or? C'est tout simplement se dire que on engrange énormément d'argent, 1550 milliards, et comment on fait pour bien le dépenser? Alors évidemment, à gauche, on va vous dire, on veut peut-être plus d'impôts, très bien. À droite, on va vous dire, on veut peut-être plus de compétitivité. Enfin, peu importe. Mais en tout cas, on a un chemin. Ce chemin, c'est de dire tout simplement que on va avoir une trajectoire. Alors là, on va partir de 5% de déficit.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne dépense pas plus qu'on ne gagne? Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'à terme, à terme, on s'autorise un certain déficit, mais pas plus. Alors moi, j'ai proposé 1% de déficit.
Je suis peut-être hyper naïve, mais j'avais l'impression que cette règle, elle existait déjà. Ça s'appelle la règle des 3%. C'est l'Union européenne, on a signé ce contrat, s'y était engagé.
Vous faites bien de le dire, elle existe, et tenez-vous bien, depuis 2009, l'Allemagne la respecte tous les ans, depuis 2009, la France dit qu'elle va le respecter, y compris encore aujourd'hui, elle ne le respecte pas. Cherchez pourquoi, aujourd'hui, la parole de la France.
Donc le problème, c'est pas la règle. C'est pas de mettre les autres règles, Thierry Breton, mais c'est de les respecter.
Non mais oui, mais comment on n'arrive pas à les respecter? Parce que si on pouvait les respecter, si on faisait ce que vous venez de dire, ça se saurait. Mmh. Ça veut dire qu'on a maintenant une indiscipline quasiment qui est institutionnelle dans notre mode de fonctionnement. Donc il faut nous forcer à remettre de la discipline. Les Allemands étaient exactement dans le même cas avant. Ils n'avaient pas de majorité. Ils avaient la CDU qui était le parti de droite, disons centre droite. Ils avaient le SPD qui était le parti de gauche. Ils n'arrivaient pas à avoir une majorité. Donc ils se sont dit, on va se mettre d'accord pour se donner une discipline. Et dans le cadre de ce chemin, on fait évidemment ce qu'on veut faire. On peut, encore une fois, comme je l'ai dit, augmenter un peu plus ci, baisser un peu plus ça. Mais on a un chemin. Donc la règle d'or, c'est quoi? C'est tout simplement dire, c'est pas de la rigueur, c'est de la discipline. C'est dire, on part de 5%, puis progressivement, on baisse très lentement, jusqu'à, donc 2032, être à moins 1%. Ça me semble être un bon objectif. Et on dit que, d'un point de vue constitutionnel, on ne peut pas présenter
un
budget.
C'est obligatoire.
Oui, c'est obligatoire.
Il n'est pas possible de faire autrement.
Mais comme on n'est pas, vous savez, on est gaulois. Alors on n'est pas discipliné. Eh ben, il faut qu'on se discipline.
Pardon, mais les Italiens, les Espagnols, les Grecs, ils n'étaient pas disciplinés. Comment c'est possible que eux se soient débrouillés? Je me souviens, il y a encore 20 ans, on disait, c'est eux les vrais latins indisciplinés. Aujourd'hui, ils empruntent beaucoup moins cher que nous. Ils sont beaucoup plus rigoureux que nous.
Vous faites bien de le dire. Prenez par exemple le cas de l'Espagne. Le cas de l'Espagne est de Pedro Sanchez, qui est un premier ministre socialiste, par parenthèse. 2,6% de croissance cette année. 2,6% de croissance cette année. 2,1% de déficit. C'était l'enfant malade de l'Europe il y a 10 ans. Aujourd'hui, ils vont être plus que nous, on est bientôt à 120% d'endettement par rapport au PIB, eux à 100%. Eh bien voilà, ils se sont mis de la discipline et ils ont décidé de travailler ensemble et de travailler comme je le dis.
On va y revenir parce qu'on comprend bien que vous avez une méthode, y compris politique. Oui. Thierry Breton, je voudrais vous faire écouter les propos de Charles Wolf. Charles Wolf, c'est le patron de Sanofi en France. Il était mon invité ce matin sur RMC. Et au fond, ce que vous appelez discipline, je crois que lui, il l'appelle aussi efficacité. Vous parliez de l'Allemagne et de la France. Lui, il a un exemple très, très concret sur l'arrivée et l'autorisation des médicaments et le manque d'efficacité de la France. Je voudrais que vous écoutiez sa comparaison parce qu'elle est extrêmement instructive.
Quand on dit un médicament n'est pas accessible en France, c'est quoi par rapport aux Allemands? Après une AMM européenne, en Allemagne, en 50 jours, le patient allemand...
Autorisation européenne.
Le médicament est approuvé en Europe. En 50 jours, il est disponible dans les pharmacies en Allemagne. En France, il faut plus de 500 jours. On a des process, ok. On sait qu'on a des process en France. Mais ça, c'est une perte de chance pour les patients.
500 jours. C'est-à-dire que l'inefficacité de notre système en France fait que quand la même Union européenne, pour la France comme pour l'Allemagne, dit ce médicament est autorisé, le temps que nous, ça se mette en place, que ça arrive, qu'il y ait les tampons, les autorisations, les processus, 500 jours avant qu'il n'arrive vraiment disponible pour les patients. 50 jours en Allemagne.
Oui, madame de Malherbe, on parle de méthode. Et moi, ce que je dis, c'est qu'au cours des prochains mois, plutôt que de proposer des projets présidentiels avec 50, 100, 200, 300 pages, dont on sait qu'ils ne pourront être réalisés, il faut proposer une méthode de gouvernement. C'est pour ça que je dis qu'il faut se fixer un cap. À partir du moment où on se fixe un cap, alors on se met ensemble et on trouve les solutions, y compris à ce moment-là, évidemment, pour être plus efficace, y compris pour régler ce type de problème. Et si je trouve que c'est extrêmement éclairant ce que vous venez de passer à l'antenne, c'est exactement, vous savez, je l'ai tellement fait dans ma vie, des situations qui étaient impossibles, et que finalement on a réussi à redresser. Pourquoi ? Parce qu'on se fixe un cap, et qu'ensuite on travaille ensemble. Le mot c'est ensemble. Bien sûr qu'on est différents, bien sûr qu'on a des visions.
Alors avec qui, autour de qui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes, là on est quand même dans une campagne, donc à un moment il faut appeler un chat un chat. Vous dites, voilà, moi j'ai l'expérience, je suis prêt à y aller, ou pas ?
Non, c'est pas du tout ce que je dis uniquement la, pour
mais
l'instant, la
pas,
méthode.
Vous irez pas.
Mais c'est pas la question. La question c'est d'abord d'essayer. Non, la question c'est de faire le travail étape par étape, et c'est la raison pour laquelle je vous dis.
Avec qui ?
Eh bien, j'ai vu tout le monde.
Tout le monde.
J'ai vu tout le monde.
Tout le monde, y compris LFIRN.
Ben, j'ai même vu LFI, puisque j'ai fait un débat avec Monsieur Bompard la semaine dernière, il y a trois jours. Bon, alors évidemment, eux, ils vont pas adopter la règle d'or, mais on a échangé sur la dette. Vous savez qu'eux, ils veulent tout simplement brûler la dette. Bon, je crois j'ai expliqué que voilà, tout le monde peut avoir des idées les plus farfelues. Après, il y a le principe de réalité. Moi, ce que je propose.
Prix Nobel Jean Tirole, qui était mon invité sur BFM TV hier, disait c'est fantaisiste.
Oui, mais enfin bon, en effet, je respecte ceux qui veulent essayer.
Voilà, chacun
peut essayer. Très bien. Moi, ce que je propose, c'est tout simplement un chemin ensemble. Et c'est la raison pour laquelle, vous le rappeliez, bon, bah, finalement, Madame Le Pen a fini par l'accepter. Évidemment, dans le bloc central, on l'a accepté. J'ai même vu que monsieur.
Mais est-ce qu'il faut une primaire? Est-ce qu'il faut. Allez-y, dites-nous.
Mais on n'en est pas encore là. J'ai même vu que monsieur Édouard Philippe l'a accepté, a proposé même un référendum. Donc, voilà, on l'accepte progressivement. Mais derrière, il va falloir le réaliser. Alors, on n'en est pas encore une fois.
Donc, le cap, c'est cette règle d'or.
Le cap, pour moi.
Ça, c'est le cap, ça, c'est l'objectif.
C'est remettre de la discipline dans notre pays, remettre de la discipline dans nos têtes, remettre de la discipline dans notre comportement. C'est ça, voilà, c'est ça dont
que les décisions aient des conséquences.
Regardez les conséquences sur PISA, sur l'éducation. La discipline, c'est ce qui nous manque aujourd'hui.
Thierry Breton, dans ce contexte-là, on a un baril à 108 $ au moment où l'on se parle. On a l'énergie et les prix à la pompe qui ne cessent d'augmenter, et on a bien compris qu'ils n'allaient pas baisser. On a des prix d'énergie, le gaz qui augmente encore ce matin. Est-ce qu'on n'est pas dans un cercle vicieux? Et surtout, avec cette situation-là, est-il encore imaginable qu'il y ait vraiment un budget?
D'abord, les prix du baril, ça a un nom. Vous savez, à un moment où Monsieur Trump voudrait donner un Trump dividende pour ses
5 000 $ par Américain les Républicains gagnent les prochaines élections.
J'ai fait le calcul, ça fait 1 200 milliards, c'est-à-dire plus que le budget de la défense américain. Oui. Bon, ça c'est quand même, voyez, bon, très bien. Okay. Je ferme la parenthèse. Cette augmentation, elle a un nom. Elle s'appelle Donald Trump. C'est Donald Trump avec la guerre qu'il a déclenchée dans les Trois d'Hormuz, qui a créé cette situation. Donc ça, c'est le Trump dividende pour la planète.
Les 108 $.
Il faut le redire, y compris à tous ceux qui se revendiquent du Trumpisme pour les élections.
Il y en a plus beaucoup, hein.
Oui, mais enfin, ils le disent plus parce qu'ils voient que c'est pas très porteur, mais ils n'en pensent pas moins. Donc, je le redis, parce qu'on a quand même aujourd'hui cette réalité, vous venez de la traduire cruellement pour nous, et en particulier les Européens, ça se traduit par parenthèse par une inflation aujourd'hui qui est aux alentours de 2,8%, ce qui est quand même beaucoup plus que les 2% qui sont acceptés, et comme je le disais tout à l'heure, une baisse de pouvoir d'achat pour nos compatriotes. Donc, il faut absolument là, et je le redis de façon très claire, si l'État gagne un petit peu, et l'État va gagner sur la TVA, il faut vraiment que l'État restitue immédiatement tout. J'ai fait les calculs, en gros, c'est par augmentation de 10 $ le baril, c'est à peu près une cinquantaine de millions.
S'il n'y a pas de baisse de la consommation. Si on tient compte de tout,
je l'ai modélisé dans le chiffre que je vous donne. Voilà, il faut restituer immédiatement aux grands rouleurs, aux plus défavorisés, à ceux qui ont besoin de leur véhicule, l'intégralité de ce que l'État gagne. Il est hors de question que l'État gagne. J'ouvre une petite parenthèse pour dire que on a la chance d'avoir un très grand pétrolier, Total. Qui aujourd'hui bloque l'augmentation à 1,99 de
plafonne
euros.
Plafonne à 2.
Thierry Breton, on peut aussi dire ce qui se passe parce que nous avons des grandes entreprises.
Total, c'est à la fois un distributeur et de ce point de vue-là, ils font le job.
Ben, il faut le dire.
Et un raffineur.
Oui.
Et là, les marges ont fait plus 4.
Oui, d'accord.
Fois 4.
Oui, mais ça.
Les marges des raffineurs.
Sur le distributeur, ils perdent de l'argent.
Oui, sur le distributeur, voilà, ok. Il a les deux bouts de la chaîne.
Oui, d'accord, mais est-ce que vous connaissez un autre?
Donc en réalité, à la fin, Madame de Malherbe, ça lui rapporte.
Est-ce que vous en connaissez un autre dans la planète, sur la planète, qui fait la même chose?
Ah, bah oui, on peut le dire. Évidemment qu'on peut se désoler de n'avoir plus qu'un seul raffineur. Mais tout de même.
Un seul, c'est quand même un majeur mondial. Donc c'est pour vous dire que
vous avez quand même entendu, Thierry Breton, soyons honnêtes. Vous avez entendu, et c'était d'ailleurs à ce micro-ci. Le ministre de l'économie actuel, votre successeur, Roland Lescure, qui a vraiment, avec insistance, disait, nous avons demandé à Bruxelles d'ouvrir une enquête sur les marges des raffineurs.
Oui.
Et Bruxelles dit, bah non. Oui. Je vois pas pourquoi on ouvrirait une enquête sur les marges des raffineurs.
On est toujours dans la même dialectique. Là, je vous le dis.
Il faut trouver des boucs émissaires.
Non, mais je vous le dis, il y a deux choses à faire. La première, c'est de faire en sorte que l'État ne gagne pas un sou sur ces augmentations et parce que malheureusement, on vient d'en parler, on n'a pas les poches profondes, hein. Donc il faut vraiment tout redistribuer immédiatement et pas attendre dans 3 mois parce que c'est maintenant qu'il faut le donner. Deuxièmement, il faut se féliciter que ceux qui sont, je dirais, à main française, eh bien, ils ont un comportement qui est un comportement citoyen.
Et il faut donc pas les surtaxer.
Et donc, bien entendu que non.
La menace d'une surtaxe sur les entreprises.
Bien entendu que non. Je le redis parce que je veux être très clair. Et encore une fois, je n'ai aucune relation avec le président de Total et encore moins avec son entreprise. Mais il faut constater que quand on a des grandes entreprises en France et qu'on est en train de vivre un choc, eh bien, on est content d'avoir des grandes entreprises qui aide le pays. Vous savez, moi, c'est ça ce qui m'intéresse.
Il faut plus de milliardaires ou il faut les interdire?
Mais bien entendu, parce que derrière les milliardaires, il y a des entreprises et il y a des très grandes entreprises. Songez que dans les 25 premières capitalisations mondiales, 23 ont été créées par des familles ou par des hommes. C'est comme ça. C'est la planète sur laquelle nous sommes. Eh bien voilà, c'est ça notre planète. Oui, moi, je suis pour, effectivement, qu'on ait beaucoup plus de grandes entreprises et donc beaucoup plus de ceux qui les créent.
Thierry Breton, 2 points. Les retraites, vous le disiez, et la question de la TVA sociale. La TVA sociale, elle revient, et elle revient par François Hollande qui est l'un de ceux qui se dit favorable aujourd'hui à une augmentation de la TVA qui passerait de 20% à 24%, une baisse à zéro en revanche sur le panier de tous les produits de première nécessité, et ça pour alléger les charges sur le travail et permettre au salaire d'augmenter.
Un point de TVA, c'est 7 milliards, 4 points de TVA, c'est 28 milliards. Moi, je vais vous dire, Madame de Malherbe, l'État-providence auquel nous sommes tous très attachés, c'est issu du Conseil national de la Résistance, c'est basé sur la solidarité. Et moi, je suis très attaché à la solidarité. C'est l'un des socles qui fondent notre nation, en tout cas depuis 1945. Cette solidarité entre les générations, cette solidarité pour ceux qui travaillent et ceux qui n'ont pas la possibilité de le travailler, cette solidarité pour ceux qui sont bien portants et ceux qui sont malades. Ça, c'est l'État-providence. Ça nous coûte 953 milliards d'euros. C'est beaucoup d'argent. Je le dis en passant, le fonctionnement de l'État, c'est 380 milliards. Vous voyez, c'est quasiment 3 fois plus. Donc il faut, plutôt que de se dire comment je vais faire des transferts, refaire des petits calculs,
rajouter un point par-ci, un point par-là,
un point. Attaquons-nous à ce problème des 953 milliards. On en parlait tout à l'heure.
Mais c'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut faire des sacrifices, il faut renoncer.
La réforme des retraites, elle n'était pas parfaite. Celle qui a été interrompue, et je suis très critique là-dessus, parce qu'encore une fois, elle rapportait en année pleine, quand ça fonctionne, entre 10 et 14 milliards.
Est-ce qu'il aurait fallu aller beaucoup plus loin?
Entre 10 et 14 milliards. Mais appliquons déjà celle-là, plutôt que d'aller plus loin. Appliquons ce qui a été voté. Appliquons ce qui a été fait. Le mal français, c'est qu'on fait difficilement voter des lois, et après ça, on les applique plus. Eh bien, voilà ce qu'il faut qu'un prochain président de la République s'engage à faire. Quand une loi est appliquée, on la fait appliquer. Par parenthèse, ça vaut aussi à Bruxelles. Je me suis battu pour avoir des lois sur l'espace informationnel, notre espace numérique. Aujourd'hui, je suis désolé de vous le dire à votre micro, on les applique pas comme on devrait les appliquer.
On les s'applique pas.
Parce qu'on a peur de Donald Trump et de ses répercussions et de ses rétorsions. Je suis bien placé pour le savoir. Je suis interdit de séjour aux États-Unis. Eh bien, forçons Bruxelles à appliquer des lois plutôt que d'en inventer une nouvelle.
Qui est-ce qui bloque?
C'est le manque de leadership. C'est le manque de leadership, Madame de Malherbe. Le manque de leadership politique. Voilà. On est dans un monde où il va falloir du leadership. Parce que derrière tous ceux qui ont redressé, vous parliez tout à l'heure de l'Italie, vous parliez tout à l'heure du Portugal, vous parliez tout à l'heure de l'Espagne, il y a du leadership. Ben oui, je le dis sans crainte, aujourd'hui, on a besoin dans les moments difficiles dans lesquels nous sommes, dans les tempêtes qui s'annoncent,
de meneurs,
de leadership. Voilà. Les lois sont là, ne refaisons pas des lois, simplifions ce qui a été fait, donnons-nous un cap, respectons-le.
Thierry Breton, vous parliez de la question de la solidarité, que notre pays était fondé sur la solidarité, et notamment les solidarités entre générations. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui une véritable solidarité entre les générations, quand on voit que les retraites sont quand même sanctuarisées, alors que là aussi, on pourrait quand même trouver des sous, ne serait-ce qu'en gelant les...
Mais Madame de Malherbe,
en désindexant.
Une retraite, dans l'esprit, encore une fois, de 45, c'est pas un contrat commercial, c'est un contrat entre un individu et la nation. Moi, je vous dis une chose, la parole...
Sauf que quand vous vivez de plus en plus longtemps et que vous avez de moins en moins de jeunes actifs...
Il faut donc peut-être travailler davantage, bien entendu. Il faudra travailler jusqu'à
3 ou 4 ans de plus, c'est ce que dit le Haut Commissaire.
On avait commencé à le faire à 64 ans, la réforme de retraite. Commençons par appliquer ce qu'on a voté, nom d'un chien. Mais derrière, pour répondre à votre question, c'est un contrat. Si jamais on estime qu'une catégorie de nos concitoyens doivent contribuer davantage, moi je vois pas d'inconvénient. Mais pour ça, il y a un instrument, Madame de Malherbe. Ça s'appelle l'impôt. Si jamais on estime, j'ai entendu qu'à Bercy, on estimait que peut-être qu'à 2000 euros de retraite, on était riche. Ou qu'à 3000 euros, c'est-à-dire un couple qui a 1500 euros de retraite, ce qui est quand même pas énorme, c'est le SMIC. Hein. Le SMIC, c'est 1548 euros. Bon, on a 1500 euros pour l'homme, 1500 euros pour la femme, ça fait 3000 euros, et qu'on doit à ce moment-là désindexer. Je dis non parce que c'est la parole de l'État qu'on renie. Je dis en revanche, si vous estimez que ceux-là doivent contribuer un peu plus, eh bien, vous avez l'impôt, utilisez l'impôt pour, encore une fois, réguler la solidarité, mais ne jouons pas avec la parole de l'État. C'est comme ça qu'on détruit l'État-nation.
Vous êtes prêt?
Je suis prêt à me battre pour expliquer.
Enfin, vous avez très bien compris ce que je voulais dire.
Moi non, mais peut-être que les auditeurs, oui.
Oui, peut-être que les auditeurs, oui. Mais d'ailleurs, vous parlez avec les uns, avec les autres.
Mais je ne parle que d'une chose.
Si on vient vous chercher, vous direz
non,
oui.
Non, mais madame, il y en a
déjà. Vous direz pas non, en tout cas.
Non, mais il y en a déjà suffisamment. Ce que je souhaite uniquement que celui qui sera le mieux placé, et notamment pour lutter contre cette mâchoire, ce danger pour la nation des deux extrêmes, eh bien celui qui sera le mieux placé adopte ce parcours dont on vient de discuter tous les deux ce matin ensemble, Madame de Malherbe.
Thierry Breton, ancien commissaire européen et ancien ministre de l'économie, merci à vous d'avoir répondu à mes questions. Il est 8h50 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. C'est vendredi, nous on se retrouve lundi matin, 6h50. Restez bien sur RMC. On poursuit avec les grandes gueules. Qui est autour de la table, Alain Marchal?
Eh bien, les GG vous attendent avec Maître Sandrine Pégan, l'avocate. Nous serons avec Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie. Et puis Charles Consigny, l'avocat, nous accompagnera notamment pour revenir sur la polémique qui entoure la ministre chargée de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger. Elle estime qu'on peut débattre, au titre de la liberté d'expression, qu'on peut débattre de la théorie du grand remplacement. Vous savez, comme quoi l'immigration prendrait le pas sur les Français qui sont installés depuis longtemps sur le territoire. Alors, est-ce que c'est de la liberté d'expression ou au contraire, c'est abondé dans une thèse raciste? 32-16 pour en parler avec les GG. Les gilets jaunes peuvent-ils redescendre dans la rue? C'est une question qu'on va se poser. Et puis, Moïse Mitterrand, le petit-neveu de l'ancien président de la République, sera notre invité. Il revient avec un livre d'inspiration libérale très Javier Milei. Il passe la tronçonneuse partout dans l'État français. Il nous expliquera ça. C'est un chef d'entreprise. À tout de suite.